السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. شيخ خير شيخ سور الاسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce jour, le dimanche, dans la maison d'Allah Azza wa Jal, en état de jeûne, en état de saum. Nous avons jeûné jusqu'à aujourd'hui 18 jours. C'est bien ça, on est le 18e Ramadan 1436-2015. Et c'est là, fadl min Allah, c'est là une faveur de la part de notre Rabb, de notre Seigneur, que de nous donner la possibilité d'avoir le iman, la foi, de jeûner, d'être présent dans la masjid, et comme on a nous a rappelé, en plus d'être présent dans une assemblée de ilm, où inshallah à l'issue de ce majlis, nous avons grand espoir qu'Allah Rabbul Izza va pardonner nos péchés, et Allah seul sait le nombre de péchés que nous avons dans notre livret de compte. Allah Azza wa Jal seul sait le nombre d'erreurs que nous avons commis, le nombre de dhunoub que nous cumulons jour après jour, à un tel point que nos cœurs sont devenus noirs de péchés. Et nous avons grand espoir que par cet effort, ce mujahada, nous tendons les mains vers Allah Azza wa Jal avec husnul dhanni billah, une pensée positive d'Allah, et ar-raja, l'espoir qu'inshallah, ces péchés seront pardonnés par notre Seigneur. Chers frères, chers sœurs en islam, après 18 jours de jeûne, quel est notre état spirituel? Et quel est notre quotidien? Notre quotidien, c'est les bonnes actions. Je pense que là, on est d'accord. Depuis 18 jours, nous sommes tous en train de jeûner, de donner la sadaqa, de lire le Coran, de faire du'a, de faire dhikr Allah. Nous sommes tous plus ou moins investis dans les actions quotidiennes du mois de Ramadan, premièrement. Deuxièmement, nous faisons attention au péché. Et ça, c'est une sifat, une qualité du jeûneur, que lorsqu'il est face à un péché, immédiatement, il se rétracte. Il réfléchit à deux fois, il fait en sorte de ne pas entacher sa journée de jeûne par des péchés. Parce qu'il a intégré le fait qu'il serait vraiment dommage d'accomplir autant de bonnes actions qui commencent depuis le matin, tahajjud, lecture de Qur'an, du'a, suhur, sihri, fajr en jamaat, dhikrullah, Qur'an, ishraq, et ainsi de suite. Et qu'après, quand on sort de la maison, on s'adonne à nos péchés du quotidien, on comprend qu'il y a une incompatibilité. Et donc, d'une manière générale, le sa'im, le jeûneur, même si ce n'est pas un super musulman, et Allah seul peut juger, même si quelqu'un qui se considère comme pratiquant moyen, d'accord, en état de jeûne, en général, on contrôle notre regard, on contrôle ce qu'on écoute, on contrôle nos faits et gestes, on fait en sorte de ne pas accomplir les péchés que nous n'avons parfois aucun mal à accomplir en dehors du mois de Ramadan. Mais il y a déjà deux actions qui sont intéressantes. Les efforts que nous faisons depuis 18 jours dans les bonnes œuvres et l'effort que nous faisons également face au péché. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend que le mois se complète? Est-ce qu'on attend qu'on jeûne encore 12 jours pour faire le Eid et acheter des cadeaux et acheter de beaux vêtements et puis on reprend une vie normale? C'est quoi notre amal? Quelles sont nos attentes? Alors nos attentes, mais là on passe à un degré supérieur, là on passe au croyant, au mu'min qui comprend qu'est-ce qu'il est en train de pratiquer. Pas celui qui considère ce mois de Ramadan comme un mois de privation, même si c'est de la privation, mais qui considère qu'au-delà de manger, boire, c'est la privation de tous mes plaisirs. Je suis emprisonné. Non, c'est pas toi qui es emprisonné, c'est Shaytan qui est emprisonné. On ne se trompe pas de rôle, c'est Shaytan qui est emprisonné. Maintenant, si on se considère emprisonné, je ne sais pas, il faut le lire sur vous, ou alors on va trouver des formules. On n'est pas emprisonné, mais l'axe. Le professeur Sam dit « Adunya sijnul lil mu'min ». Ce bas monde est une prison pour le croyant. Il y a une prison où on ne peut pas s'adonner au plaisir qu'on aimerait faire. C'est pas tout ce que j'ai envie de regarder, je regarde. Tout ce que j'ai envie de manger, je mange. Tout ce que j'ai envie d'écouter, j'écoute. Je trouve une femme qui est belle, je sors avec elle, j'aurai une relation avec elle. Au bout d'une semaine, je change. C'est pas ça la vie. Ça, c'est la vie pour ceux qui n'ont pas iman. Oulaika kal an'am balhum addal. Ceux qui n'ont pas de iman, pas de conscience, pas de muhasaba, pas de muraqabatullah, pas de amal, pas d'espoir. Pas d'espoir en notre vie. Nous avons l'espoir. Parce que si nous n'avions pas d'espoir, je vous aurais dit que qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là à la mosquée s'il n'y avait pas de vie après la mort? Je vous aurais dit enjoy, on en profite, on jouit de notre vie, on va sortir, on va manger un biryani, on va pique-niquer et puis on va danser ce soir. Moïssa vient avec nous, on danse tout. Jamais. Abadan, on a amal, on a espoir. on a iman bil yawm al akhir, on a iman bil qabr, on a iman bi malik al maut, on a iman billah azza wa jall. C'est ce qui fait la différence entre le croyant et celui qui n'a pas iman. C'est ce qui fait que jamais, si quelqu'un vient me dire, Moussa, viens, allons danser, il a 10 000 euros, je dis, je ne passe pas une seconde en boîte de nuit avec toi. Ce n'est pas une question d'argent ou d'honneur, ce n'est pas une question de travail, d'engagement avec un comité. Ça, c'est un endroit où il y a Adabullah qui descend. C'est un endroit qui me mène direct au Jahannam. Moi, je crois au Jahannam. Tu ne crois pas, mais moi, j'y crois. Alors, qu'est-ce qu'on attend? S'il y a l'iman qui est mustaqir, le iman qui se trouve dans le cœur, très simplement, le croyant, le jeûneur croyant, يرجو القبول من الله. La première chose, il attend, il veut qu'Allah Azza wa Jal accepte. C'est ça qu'on dit Allahumma inni asumu ghadallata. Non, Allahumma laka asumtu bika amantu alayka tawakkaltu ala rizqika aftartu. Après, on dit quoi? Fataqabbal minni. Non, c'est le niyat n'y est pas, c'est juste la formulation. Fataqabbal minni. On demande qu'Allah accepte. C'est la dernière phrase qu'on dit avant de manger. Oh, Allah accepte. Narju al-qabul min Allah. Et qu'Allah accepte quoi? Nos jeûnes? Ben, non, qu'Allah accepte mes jeûnes, qu'Allah accepte mes salats, qu'Allah accepte mon dhikrullah, mon dua, mon tahajjud, qu'Allah accepte ce mois d'effort. Ça, c'est la première chose qu'on attend d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, le bon croyant. Là, on va direct au dossier du bon croyant, d'accord? Au bout de 18 jours, il faut quand même être de le niveau bon croyant. Deuxième chose que le bon mu'min attend de la part d'Allah Azza wa Jal après 18 jours, 20 jours de jeûne, et je tiens qu'avant d'entamer la dernière décade, qu'est-ce qu'on attend? Ben, on espère. On a espoir qu'il y aura un changement dans ma vie. Celui qui est sincère dans ce mois, il aimerait qu'à l'issue de ce mois, ben, sa vie change. Il aimerait avoir un autre mode de vie. Il aimerait trouver vraiment l'épanouissement spirituel avec istiqama. Que tout le temps il peut venir à la salat, tout le temps il peut contrôler son regard, qu'il trouve ce bonheur qu'il y a de l'iman, qu'il n'arrive pas à trouver en dehors du mois de Ramadan, et que durant ce mois, il sent qu'il y a quelque chose de magnifique. Il se sent bien. Il se sent bien parce qu'il est à l'abri de shaitan. Il se sent bien parce qu'il y a le nour qui vient d'Allah Azza wa Jal. Il se sent bien parce qu'il y a le dhikrullah qui apporte le tama'ina, la quiétude, la tranquillité du cœur. Donc on aimerait tous, ceux qui sont sincères, nous sommes tous inshallah, on attend un changement radical de notre vie. Un changement. On va pas dire le mot radical, c'est mal compris. Un véritable changement de notre vie. Troisième chose, ben là c'est l'objectif du jeûne, on recherche la taqwa. La'allakum tattaqoun. On a déjà entendu ce verset beaucoup de fois. La'allakum tattaqoun, c'est l'objectif du jeûne. Ben, on essaie de trouver par quel chemin on va arriver, on va parvenir à la piété, à la taqwa. Chef en islam, les savants disent, pour arriver à la piété, à la taqwa, il faut absolument passer par les sifat, par les qualités de iman qui sont dans le cœur. Il y a les a'mal zahir, les actions apparentes. Salat, dhikrullah, sadaqa, ça tout le monde le fait. Et tout le monde est là, on le fait, alhamdulillah. Tout le monde, chaque personne présente dans cette masjid, a déjà prié au moins une fois aujourd'hui, a déjà lu au moins un verset du Coran, a déjà lu au moins une fois l'istighfar, et a certainement déjà donné un peu d'argent ou à manger à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est des actions que tout le monde fait. Mais est-ce que tout le monde continuera à le faire après Ramadan? Pas forcément. Il y en a ceux qui auront tawfiq min Allah, ils vont continuer. Il y en a d'autres qui ne vont pas continuer. Il y en a d'autres qui ne vont pas continuer, qui vont s'arrêter. Wallah musta'an. Qui n'auront pas le tawfiq de le faire avec istiqama. C'est-à-dire qu'il y a un blocage à un moment donné. Je réalise que l'accomplissement de bonnes actions de façon intensive durant ce mois n'est pas garanti de taqwa et d'istiqama. À partir du moment où je n'ai pas la continuité, istiqama, c'est la continuité de mes bonnes actions après Ramadan, ça veut dire que la taqwa n'a pas pénétré mon cœur. C'est très simple ça. Si vous voulez savoir si le Ramadan est ok, c'est l'objectif est atteint ou l'objectif n'est pas atteint, on a juste à regarder notre vie après le mois béni. S'il y a un changement, alhamdulillah, dans les bonnes œuvres et dans l'éloignement des péchés, c'est que la taqwa a réellement pénétré notre cœur. Si on retourne à nos mauvaises habitudes, ça veut dire que la taqwa n'a pas trouvé sa place dans ce cœur. Le cœur n'a pas fait les efforts nécessaires pour développer la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, chaque personne recherche la taqwa. Il y en a ceux qui ont énormément d'espoir, qui aimeraient devenir muttaqi, vraiment donner leur vie pour Allah. Et d'autres qui se disent que bon, je ne vais pas devenir quand même un grand pratiquant, on va y aller doucement. Mais au moins, après ce Ramadan, il y a un petit changement dans ma vie. Les savants disent donc, il faut chercher les qualités du cœur. Il faut chercher les qualités de iman qui sont batin, qui sont au fond. La taqwa justement, la piété. Est-ce que c'est quelque chose de visible? Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Quand je regarde mon âne, je dis, mon âne est un grand bam. Mais est-ce que je dis, t'es bougan, un grand taqwa? Ou le taqwa bougla, les terribles, personne ne connaît. Al taqwa ha huna. La foi, c'est comme iman, c'est dans le cœur, des choses qu'on ne peut pas voir. Les manifestations de la piété, oui, à travers les bonnes actions. Mais là aussi, dans les bonnes actions, il y a des gens qui peuvent faire par ostentation ou autre chose. Donc, en finalité, personne ne peut juger du iman ou de la taqwa d'une personne. Celui qui l'a, alhamdoulilah, il sait là où il en a, il sait qu'il ne l'a pas. Donc, nous, on a besoin de travailler ces réalités. On essaie d'axer les interventions sur ce qui est intérieur. Ça a rime un peu avec le tazkiya. Mais c'est un principe du dîn aussi. Trouver les choses qui vont animer la foi, qui vont provoquer l'étincelle de iman, parce que quand le iman, quand la foi a démarré, les actions vont suivre. Parfois, on va très loin dans les bonnes actions, mais le iman n'y est pas. La conviction n'y est pas. Donc les actions, à un moment donné, on s'essouffle, on se lasse, et puis on pense à autre chose. Il y a des gens qui ont comme ça, tant chaud, on les voit, ils pratiquent, après un moment donné, disparu complètement. Parce que c'était une bonne volonté, mais derrière, il n'y avait pas un socle spirituel. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de conviction. Les membres suivaient, mais sans conviction. Et à un moment donné, on s'essouffle et puis on passe à autre chose. Comme vous avez, parfois, vous aimez manger un truc, excusez-moi, n'importe quoi, ou on aime un passe-temps ou un truc, à un moment donné, on n'aime plus. C'est pas ça, iman. C'est pas ça, notre relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, nous, on a besoin de chercher les vraies qualités intérieures. Les vraies qualités intérieures, on peut les énumérer au nombre de 4. Et puis, ça nous amène vers notre sujet. Premièrement, istiqama. C'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, istiqama. Pour avoir istiqama, pour avoir la fermeté dans les bonnes actions, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que notre yaqin, notre conviction sur l'importance des bonnes actions et notre conviction sur le danger des péchés deviennent une réalité. C'est-à-dire que nous parvenons à intégrer le fait que accomplir des bonnes actions au quotidien, cela va m'apporter énormément de bienfaits dans l'au-delà, et que l'accomplissement des péchés au quotidien, sans limite de temps, c'est quelque chose qui sera lourd en conséquence là-haut. Et dans les deux exemples, j'ai dit là-haut, le jour de Qiyam. Donc les savants disent, si quelqu'un veut développer le istiqama, la solution, le chemin le plus important, c'est étudier al-iman bil-yawm al-akhir. Approfondir sa foi sur l'au-delà. À partir du moment où une personne va connaître les étapes de l'au-delà, mahshar al-jam'a, Hisab, Ita, Wilkutub, Al-Mizan, As-Sirat, toutes les étapes de l'au-delà, je vous assure que la personne va intégrer que chaque bonne action, le moindre subhanallah que je dis, sera son pesant dans la balance, et donc le istiqama, il y sera. Le istiqama ne vient pas en accomplissant beaucoup de bonnes choses. Le istiqama va venir à partir du moment où j'aurai conscience. Il y a une prise de conscience que ça m'apporte beaucoup. Et que ce péché-là, c'est en train de m'enterrer, ça. C'est en train de m'éloigner d'Allah. Ce péché-là, ça m'empêche de me rapprocher d'Allah. Quand le cœur est convaincu, hein, on ne l'accomplira plus. Sans limite de Ramadan, de Makkah, Madina, de Hajj, on ne l'accomplira plus. Tout passe par le ilm. Et par le fait de développer les 6 branches de la foi. Deuxième objectif spirituel qui nous amènera un changement réel pour tout le temps, Inch'Allah, de notre vie, c'est, comme on l'a dit en introduction, tajdidul iman. Faire en sorte qu'on trouve quelque chose qui nous permet de rebooster, revivifier ma foi tout le temps. Parce qu'à des fois, on sent que le iman est faible. Tellement faible que je n'ai même pas envie d'aller faire une namaz, mais je fais namaz à la maison. Fatigué, la manche trop, le ventre, le doigt. Fais namaz à même, il n'est pas haram, non? Ma demande me dit ça parce qu'il est haram. Il n'a pas dit le mot haram. Donc, ce n'est pas interdit. Ça, c'est preuve de iman qui est en train de diminuer. Quand cela a été aminé, on dit dans sunnat, fatigué là, fais sunnat un autre jour. Les pas faraz, les pas wajib, tout ça c'est dalil que l'iman est en train de diminuer. Quand le cœur est moins attaché aux bonnes œuvres et que peu à peu on commence à grignoter les makruh. On commence à mettre un pied dans ce qui est déconseillé. Sans vraiment aller dans le haram, dans le dur, du zina, l'intérêt ou autre chose, on commence à regarder, on commence à discuter, à échanger par WhatsApp et tout. Tout ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Tout ça, c'est quand iman est en train de diminuer. Et on se dit que, mais qu'est-ce qu'il faut pour augmenter iman? On ne va pas chaque fois, quand on voit iman diminuer, on va prendre un billet, on va aller faire Umrah. 6 000 euros, je ne sais pas combien coûte Hajj en ce moment, 7 000. Ce n'est pas possible. Chaque fois que je vois iman diminuer, je vais au Hajj, ce n'est pas possible. Chaque fois iman diminue, j'attends Ramadan, je ne peux pas attendre. Et on le sent, ça. Alors, très simple, il n'y a pas besoin non plus d'avoir à côté de toi un Molissab. Bon, iman diminue, j'appelle mon Youssen, diminue 1h du matin, Moïsab, ça va pas, iman est faible. Attends, Moïsab est gentil, va dire une fois, oui, mon garçon, fais ça, fais vos sous. Il y a peu courant, à un moment donné, il dit, écoute, redonne un camarade, ou trouver un numéro vert, mais on ne peut pas appeler à moi tout le temps. C'est-à-dire, comment on va faire? Et on le sent, hein. Ça suffit. C'est clair. Quand on a une présence de iman qui est puissante, hein, on sent qu'on est bien. On est bien et qu'on est capable. C'est comme si qu'on peut. C'est comme si qu'on. On peut voler, mais on a une maîtrise sur tout. Parce qu'il y a une telle connexion avec Allah, on se sent bien. C'est un peu comme durant le mois de Ramadan. Il y a une tranquillité intérieure. Maintenant que l'iman diminue, qu'est-ce qu'on fait? Très simple. Très simple. C'est la connexion avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Il y a un verset, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les mu'minines, salihines, les gens pieux, quand ils entendent les versets du Coran, leur iman augmente. Et leur confiance en Allah Azza wa Jal augmente aussi. Donc les savants disent que si on a des faiblesses de foi, ouvre le Coran, lis. Mais quel genre de lecture? Une lecture avec tadabbur, compréhension, connexion et mise en pratique. Wallahi al-azim, je jure par Allah que la lecture de quelques lignes de tafsir, ça peut faire pleurer n'importe quelle personne. Quand quelqu'un a une connexion, après c'est une question de langue, arabe ou français ou autre chose, mais quand on lit parfois un verset, qu'on va les commenter les hadiths, subhanallah, on se dit que ça c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah, il y a un flux spirituel qui rentre dans votre cœur. Ça c'est la connexion avec le Coran. Et là-dessus, on avait, bi'idhnillah, on avait un peu insisté quand on était au tampon, il y a deux semaines, on avait dit qu'on avait donné des bases de la connexion du cœur du croyant avec le Coran. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'avoir un contact journalier, yawmiyan, tous les jours, on doit avoir un contact avec le fond du Coran, avec le message du Coran et pas uniquement avec les versets. Et on avait démarré un petit tafsir de l'Alif Lam Mim dans lequel Kitab ou la Raïba Fi, pour qu'on réalise que, subhanallah, les quelques versets que tout le monde connaît par cœur, c'est riche, c'est magnifique, et juste avec les cinq premiers versets de l'Al-Baqarah, on a le chemin du Jannah. Et le Coran, c'est subhanallah, chaque verset, chaque surah nous mène vers le paradis. Donc ça, c'est un point qui nous apportera un réel changement. On ne veut pas le changement. On aimerait aussi le changement extérieur, mais très souvent, quand il y a un changement extérieur, ça ne tient pas. Ça ne dure pas longtemps. On retombe après, on revient vers nos vieux démons, excusez-moi. Mais quand le changement se fait de l'intérieur, quand la personne a compris c'est quoi l'akhira, je vous assure, quelqu'un qui a compris wasful jannah, description du paradis et description de l'enfer, la personne ne voit pas le monde de la même façon. Et la personne ne voit pas le temps qui passe de la même façon. Il va voir chaque seconde qui passe comme un moment qui normalement lui permettrait d'atteindre le Jannah. Et quand il a perdu ce moment, il se dit que j'ai gâché mon temps. Il ne va pas s'asseoir une heure et demie devant un match de Champions League. Il va se dire que subhanallah, ce temps-là, c'est un temps que peut-être c'est grâce à ce temps-là, j'aurais pu obtenir des hasanats pour obtenir le Jannah. La vision du monde change. Quand le cœur est convaincu, les jawarih, les membres vont suivre. Pareil, quand le cœur trouve la connexion avec le Coran, c'est la vie qui change, parce qu'on n'arrêtera jamais de se connecter au Coran. Même si une personne passe sa vie à étudier les différents tafsirs d'Al-Fatiha, je vous assure qu'on n'arrêtera jamais. On continue d'apprendre, parce que ça c'est Kalamullah, ça c'est la parole d'Allah, et cette parole-là, elle apporte la lumière qu'il faut au cœur. Le cœur ne peut trouver ziyadatul iman que par la connexion avec le Coran. Donc ça c'est autre chose. Autre changement spirituel sur lequel on doit travailler. Si on veut qu'il y ait un changement réel de notre vie après Ramadan, on travaille notre relation avec le Coran et on travaille notre connaissance sur Al-Yawm Al-Akhir. Troisièmement, qu'est-ce que nous voulons également sur le plan spirituel? Nous voulons une vie où on serait débarrassé de nos péchés du quotidien. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. J'aimerais que quand le Ramadan soit terminé, je ne veux pas que le jour de Eid, je recommence à regarder ce que je ne dois pas regarder. Je ne veux pas retourner vers la musique, le jour de Eid, le lendemain de Eid ou quelques jours après le Eid. Je ne veux pas retourner vers ces mauvaises habitudes. Je ne voudrais pas que deux jours le Eid sur un vendredi ou un samedi. Je ne veux pas que le dimanche 2 Shawwal ou 3 Shawwal, je ne fais pas Fajr à la masjid. Je ne veux pas retourner. Et tous les ans, c'est comme ça malheureusement. J'ai remarqué, c'est un cas de figure, hein, j'ai remarqué qu'à chaque fois que le Eid est terminé, un jour ou deux jours après, c'est là que je rate mon premier Fajr. Alors que durant un mois, j'étais à la masjid 20 minutes avant le début de la salat. Je ne veux pas retourner vers ça. Je ne veux pas retourner vers les péchés qui m'envahissaient, qui m'empêchaient de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et pour réellement arriver à ce changement de notre vie, où le croyant, il arrive à se débarrasser définitivement des péchés, les savants disent que pour ça, Le mu'min doit mémoriser, doit garder en tête quelques versets clés, quelques ayats du Coran qui nous donnent une lecture de ce monde et de l'au-delà. Description du croyant, de sa réaction, de sa vie dans le monde, de ce dunya, et les récompenses de l'akhira. Et ensuite, parce que le Coran c'est al-mathani, il y a toujours comme ça, toujours de cette façon, Allah donne les descriptions du croyant, ensuite du mécréant, ou le contraire, description du paradis, ensuite de l'enfer, ou vice versa. Et donc, juste après, je vois le mode de vie du ghafil, de l'insouciant, et je vois quelles sont les conséquences dans l'au-delà. De cette façon, en étudiant ces versets, cette méthode aussi me permettra, incha'Allah, de me débarrasser à long terme de ces péchés envahissants. Et là, ça nous ramène aussi vers une connexion avec le Coran et vers le ilm, vers la connaissance religieuse, bref, vers la parole d'Allah qui est le guide pour chaque croyant. Et quatrième point, et c'est là que ça nous amène vers notre intervention, notre sujet, on aimerait que nos actions aient une certaine ampleur. Me débarrasser des péchés, j'ai compris. Augmenter mon iman, j'ai compris. Continuer à faire de bonnes œuvres, j'ai intégré et je sais quel effort je dois faire. Un changement dans ma vie aussi, j'ai compris. Maintenant, j'aimerais que quand je me prosterne devant Allah, je ressens la présence d'Allah. J'aimerais que quand je lève mes mains pour demander à Allah Azza wa Jal un dua, j'ai yaqin, conviction, comme les sahabes, peut-être pas comme eux, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Que j'arrive à développer au travers chaque action du quotidien, al-ikhlas, la sincérité, qui est un grand mot. On le dit, sincérité, tout bout de champ, comme si c'est quelque chose de facile. C'est vraiment une des choses les plus difficiles. Parce que développer l'ikhlas, ce n'est pas donné à tout le monde. Développer l'ikhlas, c'est quoi? C'est que tu fais l'action uniquement pour Allah, en espérant les récompenses et les rétributions auprès d'Allah, et on ne cherche rien d'autre. Ni sumash, ni que les gens disent du bien de moi, ni qu'on me parle, on parle de moi bien, ni que les gens, ils vont, du tout. Uniquement, wajh Allah, on recherche le contentement d'Allah, Azza wa Jal. Il y a deux paramètres de l'ikhlas. Il y a pour Allah et pour Allah seul. Quand on dit pour Allah seul, ça j'ai compris. Ok, je ne fais pas ostentation. Mais quand on dit pour Allah, il y a un petit truc qui manque. Il y a un petit truc qui manque parce que je ne trouve pas encore cette force de iman, cette force de foi qui amène un muhabba pour Allah, qui amène dans mon cœur un amour sans limite pour Allah, qui amène en moi un rire, un amour propre qui me permet d'orienter mes actions uniquement pour Allah. Que quand j'accomplis cette bonne action, intérieurement je dis, oh Allah, ça c'est laka wahdak, c'est uniquement pour toi, oh Allah, et je le fais avec ferveur et dévotion. Je ne trouve pas l'étincelle encore. C'est pour ça que mon ikhlas n'atteint pas le plus haut degré. Et pourquoi je ne trouve pas l'étincelle? Parce qu'en réalité, je n'ai pas vraiment compris qui est Allah. À partir du moment où le musulman ne connaît pas réellement qui est Allah, il n'arrivera pas à développer la sincérité à 100% comme le sahaba l'avait développé. Parce que quand le sahaba il est mukhlis, il est sincère, il connaît qui est Allah. Quand il dit que oh Allah, ça c'est pour toi, tout seul, il y a Allah, laka wahdak, il connaît à qui il présente l'action. Quand il fait un uduhiyya, un qurbani comme on dit, il dit ça c'est pour Allah, il connaît exactement les qualités d'Allah et qu'il donne à Allah avec une sincérité, un amour qui brûle dans son cœur, et ça c'est pour Allah. Ce ikhlas là, ça fait décoller les actions. Quand le prophète s'en parlait, on avait expliqué ça il y a quelques temps, du iman d'Abou Bakr qui avait dépassé le iman des autres. Vous vous rappelez, dans Ghazwat Tabouk, le prophète avait dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé bikathratil a'mal lakin bi shay'in waqara fi qalbi. Il y a quelque chose qui a pris place dans son cœur que vous n'avez pas eu, pas à ce niveau en tout cas. C'est ce qui fait que Abu Bakr vous a tous dépassé. Les savants disent c'est iman, ikhlas, l'amour pour Allah. Que quand il fait quelque chose, il a une telle conviction en Allah que cette action là, même si pour nous ça paraît minime, ça permet aux croyants de décoller spirituellement. Et ça me manque. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer de façon concrète dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal, qu'on reste au même niveau. Si on analyse notre état, je fais une généralité, hein, on analyse notre état il y a 10 ans, dans Ramadan 2005, et maintenant, je suis pareil. C'est juste que ma barbe a peut-être blanchi, mon ventre a pris un peu d'envergure, mais je fais mes prières pareil, j'ai pas augmenté ma relation avec Allah, je suis pareil. Alors que les sahaba, yom ba'da yom, jour après jour, le iman augmentait. Jour après jour, le niveau de taqwa, le niveau de salat, le relation avec Allah Azza wa Jal augmenté. Qu'est-ce qui fait que nous on reste comme ça? C'est parce que c'est, on appelle ça, sans utiliser trop de termes techniques, a'malul quloub. Nous, les aqidah disent qu'il y a a'malul jawari, qu'on a dit les actions qu'on fait avec les membres, et puis il y a a'malul quloub. De même qu'il y a les péchés qu'on fait avec les membres, et puis il y a les péchés qu'on fait avec le cœur. L'hypocrisie, l'ostentation, la jalousie, ainsi de suite, d'accord? Mais on a besoin de se débarrasser de ce qui est mauvais dans le cœur. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est développer les qualités spirituelles qui sont propres au cœur et qui nous permettra de donner une autre dimension aux mêmes actions que je fais au quotidien. Il n'y a pas besoin d'augmenter de façon magistrale notre quota de bonnes actions. Non, on garde les mêmes, mais on les fait bien. On garde les mêmes et on recommence, ok, on peut continuer. On garde les mêmes, on recommence, on continue, mais on les fait avec ikhlas, avec sincérité. C'est là qu'on va trouver autre chose. Et pour développer la sincérité, ben je dois comprendre, quand je me prosterne, c'est pour qui je me prosterne. Quand j'offre mes biens, quand je donne ma zakat, c'est pour Allah, c'est pas que, il faut donner. Il y a, subhanallah, quand je paie mes impôts, qui est un devoir citoyen, et quand je donne ma zakat, l'état spirituel n'est pas le même. Quand je paie mes impôts, je me fais une raison. Soit je le fais en râlant, c'est normal, ou alors quand je le fais, je me dis que, ouais, de toute façon, bon, mais ça, médecin gratuit, mais les médicaments, le maire, elle a construit chemin et tout, c'est lui qui construit, enfin, il paraît, il a plein de choses, mais je vois le résultat de mon argent, enfin, écoute, freedom beaucoup, hein. D'accord? Mais quand tu donnes zakat, tu n'attends pas un retour de la part d'Allah, tu te dis que, lillahi wahda, ça c'est pour Allah, et ton cœur brûle d'amour pour Allah. Ton cœur brûle. Ce hubbuliqa illa, cette envie, quand je rencontre Allah, pour trouver les récompenses de cette action. C'est ce qu'on appelle al-ihtisab, qui est une autre qualité qui doit rentrer et greffer, rester dans le cœur, qui donnera une autre dimension à notre vie de croyant. C'est ce que les sahaba avaient. Dans les hadiths salihin, quand ils donnent un bab, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de hadiths, mais énormément de hadiths uniquement sur l'ihtisab. C'est cette relation que le croyant doit avoir avec Allah Azza wa Jal. Et il le met au début de l'Iyadu Salihin, après le Bab Ikhlas, c'est pour qu'on comprenne que ça c'est Usus. Ça c'est une partie des bases de la foi. Donc, tant que je ne connais pas qui est Allah, mon Ikhlas, mon intention sincère, n'atteindra pas le degré requis dans notre din. Et bien sûr, bien loin de celui des Sahaba et des Tabi'in, radiallahu anhum ajma'in. Deuxièmement, j'aimerais que quand je prie, ça franchement, celui qui arrive à cet état, alhamdoulilah, il n'a plus besoin de personne. Il devient, c'est un homme heureux. Quand les Sahaba, ils se prosternaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Quand le Prophète me dit que la position où l'homme est le plus proche d'Allah, c'est quand il est en sejda. J'entends ce hadith, et je me dis, non, ça ne me parle pas du tout. Ça ne me dit strictement rien. Parce que je fais des sijda. Je fais dans les prières normales, de les faraz et nafil. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Prophète m'a dit que c'est là qu'on est le plus proche d'Allah. C'est parce que le sijda, dans ma vie à moi, c'est limité à une position de prière. Mais il n'y a pas eu la connexion avec Allah. Parce que je n'ai pas réalisé devant qui je me prosterne. Quand le croyant, il a compris qui est Allah, quelles sont les qualités d'Allah, déjà il réalise la chance qu'il a de pouvoir poser son front devant Allah. Il réalise deuxièmement qu'est-ce qu'Allah est en train de lui donner, de lui accorder de cette position de sujda. Il souhaiterait une seule chose. Quel est le souhait du musulman qui est en sujda? Quelle est la chose qui doit habiter notre cœur à ce moment? L'humilité, non, c'est plus fort que ça. Quel est le rêve du croyant qui est en sujda? Le rêve du croyant. Que Malik al-Mawr prend mon âme maintenant en position de sijda devant mon Rabb. Ça, c'est quand vraiment, c'est pas notre niveau, hein, c'est pas le niveau de personne ici, Allah a'lam. C'est quand vraiment iman est entré dans le cœur et al-iman billah. Tout simplement, ça nous ramène au premier pilier de la foi. Amantu billahi wa malaikati. Ben, c'est amantu billahi qu'on n'a pas encore développé. Quand iman billah est entré dans le cœur, et comment iman billah est dans le cœur? Entre autres, en développant, en comprenant les qualités de sifat d'Allah Azza wa Jal. Mais là, qu'on est en sijda, on réalise la chance qu'on a, et on connaît devant qui on se prosterne, on connaît comment les anges se prosternent devant Allah depuis leur création jusqu'au qiyama, et que nous, on a cette chance en tant que pécheurs, Allah m'a accepté. Notre seul souhait, c'est que tout ce que je demande, Allah m'accorde. Et qu'un jour mon âme soit reprise quand je suis aussi proche d'Allah. C'est là que je réalise que le paradoxe qu'il y a entre la prosternation et Subhan Rabbi al-A'la, il y a un paradoxe entre le gestuel et la parole. Quand je suis en sijda, est-il possible d'être plus proche de la terre qu'en sijda? Non, c'est ce qu'il y a de plus haut de le corps humain, c'est le front, le visage, le front, la partie haute. La partie haute touche le sol. On est le plus bas physiquement et on dit Subhan Rabbiyal A'la, louange puis retrouver un Allah qui est le plus haut. Vous voyez pas le paradoxe? C'est Subhanallah, on appelle ça en arabe, il y a des termes, on les trouve pas en français, c'est inkisar. Le fait de se casser, de réaliser notre position de un bid d'adorateur et de se dévouer pour Allah, de se donner pour Allah. On dit, oh Allah, je t'appartiens et je suis en prosternation devant toi et uniquement devant toi. Ça apporte un halawatul iman, une douceur de la foi. Et on comprend un hadith qu'on va citer, peut-être qu'on ne citera pas, il n'y aura pas le temps, très certainement. Mais quand un sahaba dit que j'ai fait la prière auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première rak'at, il a eu quoi? Al-Baqara. Première rak'at, surat al-Baqara. On va dire que, Allah, surat al-Baqara en entier, plus de 3 séparades des rak'at, ajib, mais c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Mais ce qui m'impressionne ensuite, c'est quand le sahaba dit ensuite, thumma raka'a qadra qiyamihi. Ensuite, thumma sajada qadra qiyamihi. Il s'est mis en génuflexion, un recours qui était aussi long que son qiyam. Il a fait un sejda qui était aussi long que le qiyam. C'est-à-dire combien de temps il faut pour lire Baqara? Et attention, le hadith stipule que quand le prophète lisait surat al-Baqara, à chaque fois qu'il y avait un verset qui parlait de la clémence d'Allah, il demandait de Ah, Allah, accorde-nous, accorde à ma umma. Et à chaque fois qu'il y avait un verset qui décrivait le châtiment des peuples avant, ou la colère d'Allah, ou le châtiment de l'au-delà, de l'enfer, il demandait protection. C'est pas Non, c'est vraiment une lecture posée. Et le prophète s'arrêtait, il demandait, il implorait, il pleurait, il remerciait, il demandait protection. Imaginez le temps que prenait ce soir, le Baqara. Déjà, c'est pas le même baraka de le temps. Nous, il nous faudrait 2 nuits, d'accord, pour lire comme ça. Mais ça, c'était la baraka, la bénédiction de le temps à cette époque. On revient, et son recours était aussi long que cette position debout et son sujida. Les savants disent, ça, c'est Nabiullah, bien sûr. Ne développons pas autant de complexes. C'était le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les sahaba, ils suivaient. Le sahaba l'a dit, il n'a pas dit que je suis parti, c'était impossible. Les sahaba, ils ont suivi. Ça, c'est quand halawatul iman, la douceur de la foi, a pénétré le cœur. Et quand la douceur de la foi pénètre le cœur, le croyant, il trouve l'épanouissement, le bonheur total dans la génuflexion, dans la prosternation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui a atteint ce degré, il n'a plus besoin de personne, il n'a plus besoin de rien. Les philosophes, ils parlent de... Ah, Sophocle, je croyais parler de ça, enfin, ça fait très longtemps. Il parle de cet homme qui n'a besoin de personne, de rien. Il dit, c'est l'homme le plus heureux. Mais on arrive à un certain état comme ça, mais dans la spiritualité, parce qu'on a une relation avec Allah qui nous suffit. Hasbuk, Allah te suffit. Et que tu n'as besoin ni des bienfaits de ce monde, ni rien du tout. Ça, c'est vraiment un état spirituel extraordinaire. Et Allah seul sait, est-ce qu'à notre époque, dans le monde, il y a encore des gens qui ont atteint ce degré? Ça, c'est quand on a une ma'rifa d'Allah Azza wa Jal qui a vraiment pénétré, qui a vraiment pénétrer dans le cœur de l'homme et qui a consolidé son iman en Allah Azza wa Jal. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais que dans cette salah, je trouve la dévotion. J'aimerais que quand je fais une bonne action, je comprends la notion d'ikhlas et que j'arrive à être vraiment mukhlis et ressentir le bonheur de donner une action pour Allah. Comme on ressent parfois, excusez-moi, l'exemple est décalé aujourd'hui, vous avez acheté un portable qui coûte 600 € et vous avez économisé, vous donnez ça à votre enfant. Quand vous le donnez là, le fait de donner, vous ressentez autant de bonheur que recevoir. Le fait de donner, si on le donne avec amour à quelqu'un on aime, quand on donne, on ressent, il y a un amour qui sort du cœur, qui va de notre cœur. On est heureux de faire plaisir à l'autre personne. Toute comparaison décalée. Quand on fait une bonne action, le ikhlas, et tu ressens le bonheur d'offrir à taqdim, d'offrir cette action à Allah avec espoir qu'Allah va accepter et qu'Allah aura pitié de moi. Ça, c'est des états spirituels que les sahaba ils vivaient au quotidien, que les tabi'in et les atba' tabi'in vivaient. Et les savants disent pourquoi est-ce qu'ils avaient atteint ce degré? Parce qu'ils connaissaient Allah Azza wa Jal. Ils savaient qui est Allah Azza wa Jal. J'aimerais, et c'est le dernier souhait, j'aimerais que quand je lève les mains, comme je disais en introduction, je fais doua, que j'ai une telle conviction sur le qudra d'Allah, sur la puissance d'Allah Azza wa Jal, que je sais que Allah va accorder. Le prophète alayhi salatu wa salam, subhanahu wa hadith qui est magnifique, de le tafsir de Surat al-Anfal et de Surat al-Tawb ibn Kathir, rahimallah, il explique, il dit qu'à la veille de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa nuit en en faisant doua et en faisant salat. Il dit qu'il a tellement fait doua à un moment donné que subhanallah, son rida, le vêtement qui vient au-dessus, son rida est tombé. Il continue de demander, Wallah, nusra, Wallah, ton aide. À un moment donné, qu'Abu Bakr est venu dire au prophète d'Allah, ça suffit, Allah va t'accorder, subhanallah. Et que de notre version, il dit qu'Umar ibn al-Khattab est venu prendre la main de Prophète, il dit, oh Nabiullah, tu as assez demandé, Allah va accorder. Les savants disent que ça, c'est la connexion qui est profonde, qui est puissante avec Allah. Que le croyant, il est dans son doua, il est dans son évocation avec Allah Azza wa Jal. Il a une conviction, mais c'est dur comme fer. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme comparaison. C'est une conviction en Allah Azza wa Jal. Et il y a une différence énorme entre ces doua et mon doua Rabbana Atina Fi Dunya Hasana. On fait vite pour pouvoir partir. J'aimerais que mes doua atteignent ce degré. Que quand le Coran dit wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, j'arrive à ressentir qu'Allah est proche de moi. Parce que quand je suis en train de demander, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni ay qul lahum, dit aux croyants que je suis proche. Mais quand on fait doua, est-ce qu'on le ressent, ça, qu'on est proche? Est-ce qu'on a ressenti une fois cette proximité avec Allah quand on fait doua? Ça nous est peut-être arrivé une ou deux fois. Parfois il arrive. On est Makkah, on est devant Multazam, on a ressenti comme si qu'il y a un deuxième moteur qui a démarré. C'est un moteur qu'il n'utilise jamais, qu'il a démarré, que ça nous fait, ça nous emballe non plus, on demande. Il y a des doigts qu'on ne pensait pas qu'ils sont. Ça peut arriver des fois, mais c'est très rare. Mais imaginez que c'était comme ça chaque fois qu'on faisait doigts. Que ce soit devant Multazam ou que dans la Masjid Mubarak de Saint-Louis ou qu'il y a Barat Kana à la rivière, quand on fait doigts, on ressent cette présence, on ressent cette connexion avec Allah. Imaginez comment serait notre vie à l'heure, au moment où on parle. Comment est-ce qu'on serait des gens avec un épanouissement spirituel magnifique? On serait comme les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Les savants disent, pour avoir ces réalités dans les actions, et c'est ça qu'on est en train de, on essaie d'aborder pour trouver la sincérité, la dévotion, la concentration et la conviction dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et pour ne plus avoir cette frustration du quotidien où on sent nos actions sont vides. Nos a'mal sont vides. Quand je prie, quand je ressens, je n'ai aucun mal à regarder les choses haram, ou à faire du haram, ou à parler sur mon prochain. Les savants disent, c'est parce que cette salat était vide, dénuée de sens. Alors que, inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Qui c'est qui annonce ça? Que la salat éloigne du turpitude et du blâmable. C'est Allah, celui qui a révélé la salat, qu'il a donné à Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour donner à sa umma, qui promet que celui qui prie, ben, il ne fait plus de péché. Cette salat va le nettoyer, va lui donner une autre direction dans sa vie. Moi, je constate, j'ai 36 ans, 37 ans, je prie depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, mais je continue à faire mes péchés sans aucun remords. Ça veut dire que cette salat n'atteint pas son objectif. Si je veux atteindre l'objectif, il faut qu'il y ait les actions, il faut qu'il y ait les qualités des actions, il faut savoir pour qui j'accomplis les actions. Et là, on aura natija. Là, on aura la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété, l'objectif du jeûne sera atteint. Là, on aura tanha 'anil fahsha'i wal munkar, ça sera qui va réellement nous empêcher, nous éloigner du turpitude et du blâme, parce que j'ai réalisé que je prie, je suis devant Allah, mais quand je fais salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, je suis toujours devant Allah Azza wa Jal. Que dans la salat, je ne peux pas me permettre d'écouter quelqu'un ou de regarder ou de parler ou d'avoir une pensée autre que pour mon Seigneur. En dehors de la salat, c'est pareil. Là, on atteint les plus hauts degrés de foi. Donc, les savants disent, pour arriver à ce niveau, la recette est simple. Il faut développer al-iman billah. Et c'est ce que le mu'min, les croyants oubliés, on fonce vers les bonnes actions. Ce qui est une bonne chose. On a accompli les bonnes actions. Mais n'oubliez le socle spirituel qui donne un sens, qui donne une orientation à l'accomplissement des bonnes actions. Et du coup, en parlant de frustration, quand on disait que quand on fait sijda, je ne ressens rien, Allah musta'an. Il y a des gens qui expliquent, voilà, ma pote, il fait tahajjud, haram sharif, madina, des hudaifi, ce que les réunions appellent Sabina. Pour ça, tu as ça. Un certain même dit, c'est bidak. Non, c'est pas bidak. Il y a des textes qui vont dans ce sens, rêve, c'est un autre débat. Il dit que il nous avait fait un sujudin. Mais Dieu m'a dormi. Côté moi, tu as été pleuré. Dieu m'a dormi. Et que m'a levé, c'est un Dieu même, qu'il a loupé le qaïda entre les deux sujudins. Ben, il a fait un seul sujudin, ben, il a fait un bon, il a fait un jam'a. Mais il a un sujudin qui n'existe pas. Il a fait les deux en même temps. Il a dit, mais comment vieux tchatchala à côté, il pleut, il demande. Et moi, mais comme ça, comme un endormi, effectivement, il m'a endormi. Il m'a rien ressenti. Wallahi l'azim, c'est frustrant. C'est terrible de ressentir ça. C'est terrible quand tu es à Arafat, où un vieux tchatcha, quand il demande doua, il lève les mains depuis 14h30 jusqu'à 16h30, il a les mains levées comme ça, il pleut, l'âme, il coule. Son barbe blanc, il est rempli de doua. Où il est en forme, il est bien et tout. Ou va d'un endroit précis. Il dit, déjà plus le nom de l'organisateur, ils ne vendent pas un peu coca glacé, etc. Mais qui lui, ça va. Mais est-ce qu'elle bus Tachril, Adhan, l'esprit est occupé à plein d'autres choses, on ne se trouve pas, on ne se connecte pas avec Allah. Ça, c'est terrible, ça. On voit les gens arriver, ils veulent au Umrah, tout le monde dit à l'imam, il regarde, pas baisse regard. Quand il demande, Kaaba, regarde. Il demande, doit, il pleure, demande tout ce qu'on veut, dit, ça fait ça, ça a défoulé. Quand il arrive, ou lève, ouah, tout le monde à côté commence, lève, fait doigt, il pleure. Et où, pleure pas. Tu ressens rien. Tu regardes les gens qui passent. Tu regardes les gens qui vous gâtent une boire de l'eau, son troisième vezam, zam et tout, et ainsi de suite. Et on est, wallahi, ça c'est terrible. C'est terrible de ne pas trouver la connexion avec Allah Azza wa Jalla. Ben, on veut changer ça. On veut plus avoir ce genre de frustration. Ça, le problème ne vient pas des actions qu'on a connues. Les actions, ils y sont. On fait autant de namaz que Abou Bakr Siddiq, 5 salat par jour. On jeûne autant qu'Omar ibn Khattab, 29 ou 30 par jour. On donne autant de fois zakat de l'année que Uthman ibn Affan. Et on fait autant de hajj qu'Allah nous a demandé. Mais, je répète pour la 16e fois, mais quand le iman billah, la foi en Allah n'est pas ancrée dans le cœur, c'est comme si qu'on envoie des choses, mais c'est pas orienté, donc la réalité ne pénètre pas le cœur. Si on veut continuer un peu avec les frustrations, quand le prophète sallam dit, la fraîcheur de mes yeux, c'est qurratu ayni fi salah. La fraîcheur de mes yeux, c'est la salat. Je me dis, mais je fais la salat tout le temps. J'ai jamais trouvé la fraîcheur de mes yeux, c'est-à-dire, j'ai jamais trouvé l'apaisement, le tamanina. J'ai jamais trouvé ça dans la salat. Au contraire, j'attends que ça se termine pour passer à autre chose. C'est une routine, je le fais dans les heures pour pas faire kaza, mais j'ai jamais trouvé cet apaisement spirituel. Les savants disent, hal fakarta. Il dit que non. On reprend, les savants disent que ne doute pas de ton iman, premièrement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas musulman, tu es hypocrite. Non, ne doute pas. Ton iman est là. Ne doute pas. Mais ne doute pas qu'Allah t'aime non plus. Parce qu'Allah aime les croyants. Même ceux qui sont un peu dans l'égarement, Allah les aime. Ne doute pas qu'Allah t'aime. Ne commence pas à broyer du noir qu'Allah ne m'aime pas et que je n'ai pas vraiment iman, ben autant que d'arrêter. Non, non, non. Là, on va rentrer dans un autre dossier de waswasa de shaitan. Mais, lakin fakir fi hubbika lillah. Ne demande pas est-ce qu'Allah m'aime, est-ce qu'Allah m'a accepté, est-ce que je veux en jeûne. Non, demande combien est-ce que j'aime Allah. Scrute ton cœur et regarde combien d'amour de ton cœur tu as pour Allah. Et pose-toi la question, hal ta'lamu man ta'bud? Est-ce que tu connais qui tu adores exactement? Est-ce que tu es conscient devant qui tu te prosternes? Est-ce que tu sais pour qui tu jeûnes? Tu t'abstiens de manger, de boire et ainsi de suite. Est-ce qu'on connaît qui? Est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on connaît qui est Allah Azza wa Jalla? Pour pallier cette frustration qu'on ne comprend pas comment trouver la fraîcheur de la salah, iman billah. Également, quand le prophète sallam, il explique qu'au moment de mourir, quand c'est un homme pieux, Allah maja'alna minhum, dit que l'ange de la mort vient sous la plus belle des apparences, accompagné d'un cortège de 500 manaïka qui vont lui annoncer la bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de toi. Et dans certaines sources, on parle que l'ange lui dit Allah yuqiruka salam, Allah t'adresse ses salams. Et on lui annonce la bonne nouvelle, qu'Allah est content et qu'Allah lui accorde son paradis. D'où le verset, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Et quand on entend ce hadith, on se dit comment? Est-ce que Allah va s'adresser à moi de cette façon? On est ému, on est touché, dit Allah va envoyer, si on fait partie de ces gens, Inch'Allah, Allah va envoyer un ange spécial pour m'annoncer qu'il est content, qu'il est satisfait de moi. C'est comme si on découvre qu'Allah était Rahman, Rahim, Latifun bi'ibadi. Qu'Allah est clément, miséricordieux et bienveillant envers ses serviteurs. Et les savants disent qu'il ne faut pas attendre le moment de mourir ou de lire ces textes pour réaliser qu'Allah est clément et qu'Allah nous aime. Imaginez que maintenant une personne, durant toute sa vie, durant chaque action, chaque salat qu'il accomplissait, il avait cette conviction qu'Allah l'aime, qu'Allah est clément, qu'Allah est miséricordieux, qu'Allah veut du bien pour lui, qu'Allah veut lui faire monter de grade, Allah veut lui accorder son paradis, Allah veut lui accorder son maghfira, son pardon. Mais imaginez comment est-ce qu'on aurait vécu notre islam, notre iman, notre vie avec l'amour pour Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu aurais ressenti lorsque tu te lèves bien et tiers de la nuit durant le mois de Ramadan et tu demandes doua à Allah Azza wa Jal? Si on avait réalisé la clémence d'Allah Azza wa Jal, si on avait réalisé la grandeur, non pas d'un sifat, azama, la puissance d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'Allah est magnifique? Qu'est-ce que tu aurais ressenti si tu savais ça? Qu'est-ce que tu aurais ressenti en faisant tawaf autour de la Kaaba? Combien de personnes ils font tawaf? Ils parlent. Ils font tawaf, ils envoient WhatsApp. Ils font tawaf, ils font des selfies et ils envoient pour leurs camarades qui sont en France, en Amérique, au Canada, en Inde. Allah Musta'an. Il n'y a pas de dévotion parce que la personne ne connaît pas Azamatullah, la grandeur, tout l'honnêteté, la clémence, la bonté et tout, la puissance d'Allah. L'homme ne connaît pas ce qui fait que son tawaf est vide. Bref, on a compris. qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. On a grandement besoin de connaître qui est Allah Azza wa Jal. Autrement, on n'aura jamais sincérité, ni istiqama, ni on arrivera à faire notre propre compte de muhasaba en permanence, ni avoir le muraqabatullah, ni atteindre le degré de ihsan, le plus haut degré de foi, que quand on adore Allah, c'est exactement comme si on est devant Allah Azza wa Jal, et on ne ressentira pas non plus le halawatul iman, la douceur de la foi. Voici tous les termes techniques qui nous ont échappé depuis longtemps. Tous les termes techniques, tous les termes qui décrivent les hauts degrés parmi les croyants, qui décrivent leur spiritualité, c'est-à-dire l'intérieur, et que malheureusement, Allah Musta'an, on n'a pas réussi à atteindre par le biais de les bonnes actions. Alors les savants, rahimahoullah, disent que étudier, dirasat asma illahi wa sifati, étudier les noms d'Allah, je ne vous cache pas qu'on ne s'est pas fixé beaucoup d'objectifs, je ne sais pas depuis combien de temps on parle là, ça fait 45 minutes, on a 1h15, 1h20. On ne va pas parler des 90 noms d'Allah, c'est impossible, d'accord ? Le but c'est juste d'introduire le thème. Le but c'est d'éveiller les consciences avec comme intention, avec comme objectif que les personnes qui entendent, ils vont solliciter les savants, dire que voilà, on a besoin de discours qui vont dans ce sens, que tous les jours un dars, un sifat d'Allah. Aujourd'hui on étudie sifat Rahman. Semaine prochaine, allez une fois par semaine, Rahim, Azim, Shakur, et ainsi de suite. Ça c'est l'objectif, qu'il y a At-tama', qu'il y ait l'envie qui naît de le cœur. Tout comme on avait dans une autre ville parlé de l'importance du lien avec le Coran, que chaque personne, yawmiyan, ou une fois de temps, ou plusieurs fois de la semaine, il étudie quelques versets du Coran. Parce qu'on ne peut pas parler d'un bab aussi wasi', un sujet aussi vaste. Donc notre objectif c'est une prise de conscience et voir la vie des savants. Et on s'est focalisé sur les mufassirines. Il y a Ibn Kathir et un mufassir qui est un peu moins connu qui s'appelle Ash-Shawkani, très grand mufassir, et un autre qui s'appelle As-Sa'di. Ces trois mufassirines, ils ont dans différentes introductions, différents commentaires des versets sur les noms, les attributs d'Allah, ils ont mis l'emphase sur la nécessité. Ils parlent de Daruriya, qu'il est primordial. Ils ne parlent même pas de quelque chose qui est souhaitable. Comme par exemple, il est souhaitable qu'on sache comment donner un bain mortuaire. On va dire que c'est pas obligatoire, s'il y a un peu qui connaissent, c'est bon. Mais c'est pas fard ayn. Mais ces mufassirines, ces trois mufassirines, Shawkani, Ibn Kathir et As-Sa'di, rahimahumullah, quand on lit leurs écrits, le muqaddima de tafsir, c'est comme si ils disent que c'est fard, c'est obligatoire. Mais en fait, c'est obligatoire. Parce que ça fait partie des bases de iman billah que de connaître qui est Allah. Et c'est tout à fait cohérent. Si pendant 45 ans de ma vie, je dois me prosterner 5 fois par jour devant Allah, pensez pas qu'il est cohérent de savoir exactement devant qui je me prosterne. C'est pas juste que Allah, c'est tout, un seul. C'est un sifat, qu'Allah est wahid, ahad, oui, mais il n'y a pas que ça. Imaginez le subhanallah, le niveau spirituel qu'on atteindrait si on connaissait les 99 noms d'Allah et tout ce qui découle comme sifat. Quelle serait notre ta'alluq, notre connexion avec Allah Azza wa Jalla? Al-Shawkani, rahimahullah, dit dans le tafsir que فَإِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَفَعَلِ أَشْرَفُ الْعُلُومِ. Il dit que ça, c'est la meilleure des sciences qu'un mu'min peut apprendre, connaître son Seigneur. Il n'y a pas meilleur que ça. Wa awlaha bit-tafdili 'ala al-istiqaa. Il n'y a pas un thème qui mérite le plus notre attention et qui est aussi prioritaire pour notre spiritualité, pour notre équilibre psychologique, pour notre vie de ce dunya et pour nos pratiques religieuses, pour notre vie de l'au-delà, que de connaître qui est Allah Azza wa Jal. Et il dit, troisième point, wa muthmirun li jami'i al-khayrat al-ajila wal-ajila. Ça rejoint ce que j'ai dit, et qui va donner comme résultat un haut niveau de réussite, najah, ajil, immédiatement et plus tard. C'est-à-dire la réussite, le croyant, il va le voir directement de ce dunya, de ce monde et de l'akhirah. Et si on a le temps, mais on n'aura pas le temps, qu'un jour on avancera et qu'on verra d'autres sifat au-delà de Rahman Rahim, l'objectif du jour c'est juste de voir Rahman Rahim et Azim si on peut, qu'on verra par exemple Latif, que Allah Azza wa Jal, il sait exactement ce qui est bon pour toi. Là, on zappe les deux premiers sifats, juste pour avoir cet exemple illustré. Quand on dit qu'Allah est latif en français, latif veut dire gentil. Mais bon, c'est au-delà de ça. C'est la bonté d'Allah. Bien versé. Latifum bi'ibadi. Allah est bienveillant envers ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah, il sait exactement ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Et il te donne ce qui est bon, même si à tes yeux ça paraît comme mauvais, mais en finalité, il y a un grand khair pour toi. Et les savants disent que les épreuves, c'est exactement ça. Celui qui a iman sur la qualité d'Allah qui est latif, Allah est bienveillant envers ses serviteurs, mais il ne vit plus les difficultés de la même façon. La même mauvaise nouvelle ou la même situation de crise ou de maladie ou d'épreuve qui minait, qui ruinait sa vie jusqu'à maintenant, il voyait ça comme une calamité, comme un châtiment d'Allah Azza wa Jal, comme le fait qu'Allah il ne m'aime pas, il m'a jeté, astaghfirullah, tout ça c'est des paroles de kufr, hein. Allah il m'a bordé, Allah il a préféré telle personne, et moi il n'écoute pas mes doigts, je suis là, je suis malade, je suis au chômage, je suis célibataire, ma femme est partie, je suis dans des problèmes, je fais doigts, je viens me dire, Allah me donne rien et tout. Astaghfirullah, les mêmes situations, ouh, je déprime pas la personne, Allah protège. Les mêmes situations angoissantes et terrifiantes que la personne vivait et qu'il voyait ça comme une calamité. Mais quand une personne comprend le mot, le sifat, la qualité d'Allah, Allah il latif, il est bienveillant envers ses serviteurs, ça donne une autre dimension. Regardant une seule épreuve, quelqu'un a un problème de santé permanent, il va réaliser que ce problème de santé là, c'est peut-être ça, c'est la clé qu'Allah me donne pour accéder au Jannah. Je me suis toujours plaint à tout le monde que, ouais, mais il a tel problème, le cœur, mais il n'a pas mangé vite, mais il n'a pas fait telle chose, ou tel problème, ça handicape ma vie, ça m'empêche de vivre comme tout le monde. J'arrive pas à manger comme tout le monde, j'arrive pas à faire telle chose comme tout le monde et tout. On se sent diminué, on se sent presque opprimé par Allah, astaghfirullah. Mais quand on réalise le sifat qu'Allah est latif, on se dit que ben, ça émane de la hikmah d'Allah, de la sagesse d'Allah. Allah, il sait que ça me permettra de dépasser certains manquements dans ma vie pour obtenir, pour avoir un petit sentier que pour moi. C'est que pour moi, ça. Pour arriver directement à Jannah. Pour me faire pardonner. Et le Prophète me donne des descriptions. Il dit qu'il y a des gens qui, le jour de Qiyam, ils se présentent devant Allah Azza wa Jalla, ils n'ont plus aucun péché de les livrer de compte. Et le Prophète me dit que c'est des gens qui, achadou nasi bala, l'alambiya, thumma l'amthal fal amthal. Non, le Prophète donne un exemple, le hadith ne me revient pas. Il dit, fayoubtal al-rajul ala hasabi dini. C'est pas ce hadith non plus, bref, on le dit en français, qu'il y a des gens. Ma yazalu al-'abdu ma yazalu al-bala bil-'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'ah aw kama qala 'alayhi salatu wa salam. Quand quelqu'un cumule les épreuves ibtila, tout le temps on a des difficultés, il dit que cette personne il connaît une évacuation directe. C'est comme si que c'est un tout à l'égout, excusez-moi. Il y a des péchés, ça sort tout de suite, ça reste pas. Hatta yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'ah. Cette personne vit, il vous côtoie et dans son livret de compte là, si on avait un scanner pour vois combien de péchés tu as, le livret de compte est vide. Il n'y a pas un péché. Pourquoi ? Parce que ma yazalul bala ou bil abdil mu'min. Le bala, il est mustamir. Les épreuves, cumule tout le temps cette personne de taklif, ben, tout le temps ses péchés sont évacués. Et le jour de Qiyamah, il rencontre Allah. Wa ma alayhi min khati'a. Mais quoi il reste à faire ? Allez dans le Jannah. Tu viens devant le tribunal d'Allah, on examine, tu vois ton livret de compte, les bonnes œuvres, mashallah, sobre, patience et tout, on a un livret de compte du péché, il n'y a strictement rien. Et là, on a une autre vision de la chose, on comprend les choses d'une autre façon. Vous voyez que, subhanallah, quand Ash-Shawkani, rahimahullah, dit que « Muthmirun li jami'il khayrat il-ajilati wal-ajila » dit ça apporte énormément de bonheur et de résultats de natalisation de fruits dans ce monde et de l'au-delà, c'est-à-dire même dans ta gestion de la vie, dans ton rapport avec les autres, dans ton hayat dunya, tu décryptes les choses, tu comprends en fonction de la hikmah d'Allah. Pas en fonction des règles de la société, pas en fonction de ta conception du bien, du profitable ou du néfaste, mais en fonction de la hikmah d'Allah, tu comprends les choses et tu t'en remets à Allah, mais complètement. Et c'est là qu'on voit des récits étranges, comme le nom de Sahaba m'échappe, subhanallah. Sahaba, en voyage, on lui annonce une mauvaise nouvelle que ton fils est mort. Et il a un accident aussi, et sa jambe est écrasée, je crois, par la monture ou par le char, je sais pas quoi, et on doit l'amputer. Dans une même journée, deux épreuves. Peut-être son nom revient dans un instant. Il dit que, Alhamdulillah, il remercie Allah. Il dit, Ya Allah, kana li atrafun arba'a, fa'akhadta minha, fa'akhadta wahida, wa abqayta li thalatha. Oh Allah, j'avais quatre membres, deux jambes et deux bras. Tu m'as donné, ces ni'mat, tu m'as toujours donné. Ça a toujours été avec moi. Oh Allah, tu en as repris un seul, mais tu m'en as laissé encore trois. Falhamdulillah. Ah, Dieu, vous dites, c'est extraterrestre, hein. La personne est amputée de sa cuisse, il ne pourra plus jamais marcher, courir et ainsi de suite. Et il remercie Allah, et pour le décès de son fils, il dit, oh Allah, là, c'est un peu flou, je suis fatigué, j'ai faim aussi, c'est peut-être pour ça, le texte ne me revient pas, il dit, oh Allah, j'avais tant nombre d'enfants, je ne sais pas si j'avais quatre ou cinq enfants, tu en as pris un, et tu m'en as laissé quatre ou cinq. فَإِذَا أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ. Oh Allah, certes, tu as peut-être pris, mais tu m'as donné plus que ce que tu as repris. Tu m'as certes éprouvé, mais tu as eu pitié de moi dans ton épreuve, dans l'épreuve. Les savants disent, ce genre de réaction, c'est quand le mu'min a atteint ce haut degré de iman et que sa relation avec Allah, elle transite par les sifat d'Allah. C'est-à-dire, il connaît Allah, et personne ne connaît vraiment Allah en intégralité, mais ne serait-ce connaître Allah par le biais de ce qu'il nous a donné comme information de l'wahyin à propos de lui. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit à propos de lui, de le Coran et de les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben c'est ça qu'on doit se connecter à ça, et de cette façon on connaît qui est Allah, on connaît en fonction de ce que l'homme peut comprendre, c'est-à-dire en fonction de ce qu'Allah nous a donné. Mais si on n'a pas fait ce pas, on n'a pas créé ce chemin vers Allah pour connaître Allah, ben on va être déstabilisé dans toutes les situations de la vie. Et donc voyez ce sahaba, comment il a eu cette réaction de iman, parce qu'il connaît qu'Allah est adl, hakim. Allah est juste et équitable. Et latif, Allah est bienveillant. Quand on envoie une épreuve, c'est toujours parce qu'il y a un bien pour son serviteur. Vous voyez le degré spirituel qu'on a. Ça, c'est Imam Shawkani qui donne. Donc, il explique l'importance. Et il dit que ça, c'est Ajalluma. Pourquoi est-ce que c'est la science la plus importante? Il dit qu'on subhanallah, on va juger l'importance d'une connaissance religieuse en fonction du contenu. Par exemple, si je dis, je compare, est-ce qu'il est plus important d'étudier le tafsir ou d'étudier, je ne sais pas moi, l'héritage. Je ne sais pas, peut-être que l'exemple n'est pas bon aussi. On va dire que le tafsir, c'est un niveau supérieur parce que ça, c'est kalamullah. L'autre, c'est un far'in. L'autre, c'est une application d'une règle de jurisprudence qui ne se produit pas tout le temps aussi. C'est au cas par cas, quand c'est nécessaire. On va dire que ça, c'est prioritaire par rapport à ça. Dis donc, en fonction de ce que tu apprends, tu peux dire, est-ce que ça, c'est prioritaire? On dit, mais donc, imaginez, quelqu'un apprend les qualités d'Allah, le sifat d'Allah, ben il étudie, il essaie de connaître qui est Allah. Il n'y a pas aucune science qui dépasse ça. Même étudier la kalamullah vient après l'étude de Allah, connaître qui est Allah Azza wa Jal, encore une fois, muqayyad, en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a informé dans le wahyayn. Il dit que wal ishtiralu bi fahmihi wal bahth tam'an, dit que celui qui donne l'essentiel, qui consacre de son temps, ben c'est le meilleur temps qu'il peut donner pour sa vie spirituelle que d'apprendre à connaître qui est Allah Azza wa Jal. Hada. Il dit que, voyez dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit sabbih isma rabbikal a'la. Il dit que quand Allah dit glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Al-A'la, qui veut dire le Très-Haut, il dit que fal-ilmu bil-'aliyyi al-a'la huwa al-'ilmu al-a'la. Il dit que le fait de connaître qui est que Allah est le plus haut, quand je vois sabbih isma rabbikal a'la. Tous les soirs on entend notre tarawih, sabbih isma rabbikal a'la. Quand l'imam pas fatigué, hein, je lui dis wal 'asri na'tina kalkuta, parce que le tarawih est déjà long. Allah musta'an. Ça contredit tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pardonnez-moi. Donc quand l'imam il a bien voulu dire sabbih isma rabbikal a'la et que je vais apprendre al-a'la, ulouullah, qu'Allah est le plus haut et ainsi de suite, mais il dit que ce que tu es en train d'apprendre, ça c'est a'la al-'ilm, c'est le 'ilm le plus élevé aussi, parce que tu es en train d'apprendre les qualités d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, ce que Shawkani et les autres mufassirin rahimahoullah disent, que Allah Azza wa Jal a créé l'homme pour deux choses. Pour que l'homme connaisse qui est Allah et l'homme adore Allah. Il y a deux choses. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ. Allah nous a créé pour faire son adoration. Et quand on regarde d'autres versets, pendant le surat al-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun. Qu'est-ce qu'il dit après? لِتَعْلَمُوا. Allah parle de la création des cieux et de la terre, afin que vous sachiez, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout, que la puissance d'Allah est sans limite. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et que, j'ai pas la traduction, mais que la connaissance, la science d'Allah Azza wa Jal, elle a couvert tout. On comprend la sifat qu'Allah est qadir, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, et qu'Allah est alim, إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Dit que donc, Allah crée l'homme pour qu'il fasse son adoration, pour que l'homme fasse l'adoration d'Allah, mais également pour que l'homme apprend à connaître Allah. Il dit les deux doivent aller ensemble. En même temps, on fait un pas, un cheminement vers Allah, on fait l'adoration, mais en même temps, l'homme se doit, parce que les versets stipulent l'ita'lamu, afin que vous sachiez, afin que vous appreniez, afin que vous compreniez, ça va dans le même sens. En même temps, on connaît qui est Allah, et là, on fait son adoration. Il dit parce que celui qui a fait que l'adoration d'Allah, sans apprendre, sans connaître qui est Allah, cette adoration-là, elle sera bancale. Et tout le socle spirituel qu'on a cité, on ne le retrouvera pas. Parce que ce sera juste un devoir, le sentiment du devoir accompli. Vous êtes une obligation, astaghfirullah, parfois même un fardeau qu'on se doit de faire. Il y a des gens qui voient le jeûne comme étant un fardeau. Mange pas, bois pas, il compte les jours comme un prisonnier. Il reste 12 jours, 12 jours, maman, il nous les libre. Shaitan a autant dit, dans 12 jours, il est libre. Et on réagit pareil. On ne peut pas avoir un point commun avec Iblis quand même, il y a un problème. Il y a que la personne qui considère l'abstinence de nourriture et de boissons et ainsi de suite comme étant quelque chose de difficile, humainement inacceptable, mais on le fait parce que voilà, c'est comme ça, c'est que la personne n'a pas réalisé que ça c'est un mujahada pour Allah. Et qu'à chaque fois j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne et tout, dit Allah, ça c'est pour toi, subhanallah. J'écoutais un savant, un collègue qui était en train de faire un programme pour nos jeunes hier, il disait que il fait tajdid dunya chaque fois qu'il commence le jeûne, il dit Allah, hada laka anta. Tout simplement, Allah, ce jeûne-là, c'est pour toi. Toute cette journée de difficultés que je vais endurer, ya Allah, c'est uniquement pour toi. Et on se dit que Sahaba, ils ont connu Badr, ils ont connu donner leur temps, leur bien, sacrifier pour Allah, Azza wa Jal. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucun sacrifice pour Allah. Ce jeûne, c'est un petit mujahada pour nous. Mais on le fait pas. Donc, celui qui n'a pas compris, qui ne connaît pas la qualité d'Allah, Azza wa Jal, il comprendra pas le sens de l'ibada. Il va faire l'ibada, mais comme il n'y a pas le ilm, connaissant Allah, Azza wa Jal, ce sera pas muthmir, comme Shawkani a dit. Ça ne va pas déboucher sur une élévation spirituelle de la personne et un décollement de la personne qui ferait de lui normalement l'homme le plus heureux dans ce monde et inshallah dans l'au-delà. Également, on en a combien là? Une heure. Encore 10 minutes? 15 minutes inshallah. C'est vous qui décidez. Également, il dit que وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ, il dit que si on analyse les textes du Coran, on est toujours les premiers à mashallah en recherche qu'est-ce qu'Allah a demandé et on va mettre en application ce qui est la qualité du croyant. Vous regardez, il y a 30 versets. C'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. J'ai appris ça, subhanallah, en lisant cette introduction. Il dit qu'il y a 30 versets dans lesquels Allah Azza wa Jal demande à l'homme de connaître. Fa'alamu, fa'alamu, wa'alamu. Sachez que, et il y a le sifat d'Allah. Fa'alamu anna Allah azizul hakim. Wa'alamu anna Allah bi kulli shayin alim. Wa'alamu anna Allah bima ta'amaluna basir. On va pas citer les 30. Par exemple, le dernier de Sourate Al-Baqarah. Et sachez anna Allah bima ta'amaluna basir. Sachez qu'Allah voit ce que vous faites. Sachez wa'lamu anna Allah sami'un alim. Allah entend tout, Allah sait tout. Wa'lamu anna Allah ghani, Allah est riche. Sachez que wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, sachez qu'Allah est avec les gens. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a wa'lamu, sachez que il y a le sifat d'Allah. Il a énuméré 30 versets de ce type, de cette construction de le Coran, dit que il y a amr min Allah, l'ordre d'Allah Azza wa Jal à l'attention de cette umma pour que le mu'min apprenne à connaître Allah. C'est pour ça que quand je dis que Shawkani et Sa'idi et Ibn Kathir un peu moins quand même, quand ils parlent de connaître Allah, c'est presque comme si c'était une obligation. C'est parce que il y a amr dans le Coran, le verbe est un impératif. Wa'alamu, i'alamu, ça tourne, ifa'alam, ça tourne autour de fa'alam, wa'alam. Et y'alamou. Non, y'alamou n'a point. Oui, y'alamou aussi. C'est un ordre de la part d'Allah que l'homme se doit, le croyant doit absolument savoir qu'Allah entend tout, qu'Allah voit tout, qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur, qu'Allah est capable de tout, et ainsi de suite. C'est donc un devoir du croyant. Et il va même plus loin, il dit que analyser les plus beaux versets du Coran. Il y a des versets qui dépassent les autres. Il y a des versets que, à propos duquel le Prophète a dit que ça c'est parmi les meilleurs versets du Coran, mais ces versets-là, ils ont un point commun. Ils ont un point commun que ce sont des versets de sifat. Des versets où on a les qualités d'Allah Azza wa Jal. On avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait demandé à Ubay ibn Ka'b, Atadri, ayya ayatin fi kitabillahi a'azam, o Ubay, est-ce que tu connais quel est le verset qui est le plus important de le Coran, le plus magnifique? Ubay dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Le prophète dit Sadaq, tu as raison, il a tapé. Il a tapé et dit qu'Allah met plus de iman de ton cœur, de ilm et tout. Les savants disent que Ayatul Kursi, c'est un verset dans lequel il y a beaucoup de qualités de sifat d'Allah qui est cité. Également, quand on regarde Ummul Quran, Suratul Baqara, Suratul Fatiha, à propos de laquelle le Prophète dit que ni de le Torah, ni de l'Injil, ni de le Zabur, ni de le Quran, il y a un surat qui est aussi puissant que As-Sab'ul Mathani ou le Quran al-Azim, que les sept, le verset qui comporte sept versets, le surat Baqara. Il n'y a rien de plus fort, ni de le Quran, il n'y a pas un chapitre équivalent, ni encore moins de le Torah, Zabur ou Injil. Et les Mufassirin disent que وَفِيهَا مِنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَعْظَمُ مِمَّا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ d'autres choses. Al-Ma'ad. Ce qui est cité dans le Sourate Al-Baqara, majoritairement, ce sont des sifats, des qualités d'Allah plutôt que d'autres choses. Majoritairement, donc les savants disent que, même قُلُوا اللَّهُ وَحَدْ, je dis même, dans certaines sources, on dit que قُلُوا اللَّهُ وَحَدْ est équivalent au thuluth, au tiers du Coran, ben dans le surat al-Ikhlas, il y a cité les qualités d'Allah en rapport avec l'unicité d'Allah. Ahad, Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dit que les versets qui se distinguent de le Coran, ce sont en général les versets dans lesquels il est mentionné les sifat, les qualités d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fait comprendre que c'est un devoir et que si on ne les étudie pas, on passe à côté de quelque chose qui est impératif. Continue, dit également que en étudiant les qualités d'Allah Azza wa Jal, on va former asl min usul al-iman. On va former la fondation de notre iman. Il parle même, et ça c'est les termes qui ça j'aime, il parle de haqiqatul iman. Il dit que quand le mu'min aura appris, il aura étudié les noms et les sifats d'Allah Azza wa Jal, c'est là qu'il va réaliser, il va intégrer la réalité de la foi. Et quand la réalité de la foi pénètre un cœur, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est l'homme le plus heureux de ce dunya et sans le moindre doute dans l'akhira. فَيَعْرِفُ الرَّبَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ. Il va enfin connaître vraiment son Seigneur, hein, sur qui il porte iman, et celui pour lequel il fait بَذْلِ الْجُهْدِ, pour lequel il fait autant d'efforts qu'on fait, et autant de privations, ben ça, tout ça prend un sens. Il y a des gens qui parfois disent que oui, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on prie? Il y a des philosophes parfois, hein, une communauté dit, mais prier, je pense qu'il y a des choses plus importantes. Dans mon cœur, il y a la présence de Dieu, j'aime Dieu et tout. Pourquoi donc prier? Pourquoi s'efforcer et tout? Une personne me dit qu'une fois, il a amené quelqu'un faire Hajj. La personne est arrivée à Makkah. Non, il est arrivé à Arafat. Il y a autant de monde qui se bouscule. Il a vu Jamarat. Il dit, non, ramène-moi à Makkah. Il est parti, il est assis devant Kaaba. Et là, il fait dhikrullah. Il dit, c'est ça qu'Allah attend de moi. Bah, pas besoin de faire tout ça. Mon cœur est avec Allah. Il rate son Hajj. Il ne va pas à Arafat. Il ne va pas faire rien du tout. C'est-à-dire, subhanallah, dit que quand la personne n'a pas compris pour qui on fait les efforts, ben, il n'y a pas de sens. Et même pour les interdits, il y a des gens qui disent que pourquoi dans l'islam, tout ça l'interdit. Il n'a pas le droit de danser, il n'a pas le droit de fumer zamman, il n'a pas le droit d'aller en boîte de nuit, il n'a pas le droit de boire l'alcool, il n'a pas le droit d'écouter la musique. Mais tous les plaisirs, c'est illicite alors. Mais quoi l'autoriser? Il y a parfois des jeunes qui posent cette question, de moins en moins, alhamdulillah. Mais pourquoi est-ce que ces questions viennent de l'école? Ça, c'est signature shaitan. Tout droit réservé, all right, réservé, c'est shaitan. Ça, c'est le genre de waswasa qui vient de shaitan. C'est que la personne n'a pas compris, mais pour qui je m'abstiens de tout ça? Quand on a compris, ben, ce sacrifice-là, qui me le demande? Ben, la question ne se pose plus. D'ailleurs, c'est le Coran. Dit dans Tarawih, ça fait très longtemps que nous sommes tafsir, le verset ne me revient pas, que si Allah avait demandé aux croyants de faire telle chose, peu de gens l'auraient fait. C'est-à-dire, Allah ne vous demande pas autant de choses. Et en commentaire, Ibn Kathir dit que Abu Bakr dit, Wallahi, si Allah m'avait demandé de le faire, je l'aurais fait. Abu Bakr dit, moi je l'aurais fait pour Allah. Tout ce qu'Allah me demande, je fais. Même si c'est impossible, je l'aurais fait pour Allah. Il dit, mais quand quelqu'un n'a pas compris que je m'abstiens de telle chose, par exemple, quand tu dis le zina, l'adultère, personne dit que oui, mais comment on ne pas faire l'adultère à notre époque? Regarde les belles femmes qui sont autour de nous, regarde le contexte et ainsi de suite. Il dit, oui, mais j'arrive pas, c'est inhumain. Je suis un homme normalement conscient, je peux pas me contrôler mon regard. Tu n'arrives pas à contrôler parce que tu n'as pas compris pour qui tu contrôles ton regard. On ne te demande pas de baisser les yeux parce qu'il ne faut pas regarder. On te demande de ne pas regarder parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui t'a dit ne regarde pas. Si on avait dissocié, au lieu de regarder juste, on remontait un peu, on dit qul. Mais qui a dit qul? Qui a dit qul? C'est Allah qui a dit qul. Oh Muhammad, dis aux croyants d'eux. Si on avait compris que ça vient d'Allah et qu'on connaît qui est Allah, que c'est Allah qui te donne cet ordre, c'est Allah qui t'interdit, assurément on comprend et ça prend un sens. Notre iman prend un sens, nos bonnes actions prennent un sens, notre éloignement des péchés également prend un sens. Ça c'est haqiqatul iman, réalité de la foi qui pénètre les cœurs. On parle de iman rasikh qui est vraiment entré dans le cœur. Il dit que, et au contraire, puis il dit en conclusion, kullama. Au plus tu vas connaître Allah, plus tu vas connaître ton Seigneur, plus iman et réalité va entrer dans ton cœur. Il dit mais wa kullama naqasa. Et moins on connaît Allah, moins on comprend l'importance des bonnes actions, moins on sera sincère, moins on fera avec istiqama, moins on arrivera à s'éloigner du haram. C'est comme si on est en train de faire le diagnostic de notre vie. C'est comme si on avait deux dossiers médicaux, l'autre c'est pas pour moi, et l'autre ben, on retrouve tous les symptômes. Oui, effectivement, je suis pas sincère. Effectivement, j'ai du mal à m'éloigner du haram. Effectivement, en dehors du mois de Ramadan, j'ai moins de fermeté dans telle chose. Mais dit que ça, le résultat d'une méconnaissance d'Allah Azza wa Jal, iman billah, le premier premier pilier de la foi, Amen to Billah, n'a pas réellement pénétré le cœur. Et puis il donne cet exemple, ça c'est qui ça? Ça c'est dans les commentaires de Bukhari Muslim et ainsi de suite. Il dit que Asas Ubina Uddin al-Iman Billah. Le pilier, la fondation de la religion, c'est Iman Billah. Il dit quand ce Iman Billah est ferme, solide, il donne une métaphore, tu peux construire des étages, tu peux agrandir la construction, mais tant que ça c'est vacillant, on ne peut rien faire de plus. Même si on greffe, on va faire plein de bonnes choses, à un moment donné, on abandonne, on arrête parce que Iman Billah n'a pas réellement pénétré le cœur. Bref, on a compris que les savants disent que ça c'est essentiel. Ils disent également ça c'est une qualité des ulama. Quand le Coran Allah Ta'ala dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dans surat Fatir, uniquement les savants, c'est uniquement eux qui craignent innama. C'est uniquement eux qui craignent réellement Allah, la vraie khashyatullah, c'est dans le cœur des savants. Et en commentaire il dit ça c'est Ibn Kathir, le boss. Ibn Kathir qui dit ay innama yakhshahu haqq خشيته العلماء العارفون به سبحانه. Les savants, ceux qui connaissent Allah, c'est eux qui ont réellement la crainte d'Allah. Et certains savants disent, c'est pas uniquement, c'est pas celui qui connaît par exemple toutes les maslahs, comme il dit, maslah masail et tout, fatwa, ça aussi, mais aham shay, c'est connaître Allah Azza wa Jal. Celui qui connaît Allah, c'est lui qui aura la crainte. Et les savants disent que c'est très clair. Quand tu connais Allah, tu connais que tu dois aimer Allah. Et il y a un truc que je n'ai pas complété tout à l'heure parce que je suis angoissé, j'ai encore 70 pages pour vous, mais j'ai 7 minutes, donc on essaie de zapper. Il dit que quand on dit qu'Allah nous a créé pour deux choses, pour connaître, qu'on connaît ce qu'est Allah et qu'on fait l'adoration, il dit celui qui fait que l'adoration et qui ne connaît pas Allah, il passe à côté de plein de choses. J'ai oublié l'autre sens. Il dit, mais là, ce n'est pas possible par contre. Il n'est pas possible qu'une personne connaisse, il apprend, il étudie, il connaît Allah et il ne fait pas de bonnes œuvres. C'est impossible. Parce que quand on connaît Allah en fonction de ce qu'Allah a révélé par la Sunna et la vie des savants, comment ils expliquent les sifats d'Allah, quand on a intégré la beauté, la grandeur, la puissance d'Allah, les qualités d'Allah, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester les bras croisés parce que tu connais déjà que tu as rendez-vous avec Allah. C'est tout ça, c'est des yaqin qui deviennent réels. C'est des convictions qui deviennent réelles dans ta vie. Tu as la conviction sur toutes ces étapes, tu connais qui est Allah, tu ne peux pas rester les bras croisés. Au contraire, tu angoisses à chaque moment, chaque minute qui passe, que tu n'as pas fait les efforts pour te rapprocher de lui, tu culpabilises. Donc là, ce n'est pas possible. Quelqu'un connaisse qui est Allah, il apprend qui est Allah, mais qui ne pratique pas, ça c'est mustahil. Parce que s'il a appris correctement, il va faire les bonnes œuvres. Mais l'autre, ça existe, Mme Zain, c'est notre canon. Donc il dit que ça c'est une qualité propre aux savants. Plus on connaît Allah, ben, plus la taqwa, elle va être présente dans le cœur. Et quand est-ce qu'on atteint l'ihsan? Que quand tu pries, c'est comme si tu es en train de regarder Allah, tu montres à Allah ton envie de te rapprocher de lui, ta ferveur, ton amour, que tu brûles l'amour pour lui, tu veux lui donner ton temps, tes a'mal, ta vie. Mais on dit, mais qui c'est qui vit comme ça? Mais celui qui a intégré les qualités d'Allah, il arrive ce degré spirituel. Les savants disent que si le ciel s'ouvrait, que le sahaba voyait le Jannah et le Jahannam, ça ne change rien selon certains ulama, parce que leur conviction, leur iman en Allah avait atteint le summum, le paroxysme, comme aucun être humain, aucun compagnon de prophète n'a atteint dans l'histoire de l'humanité. Ils disent entre autres parce que le prophète a fait établir toutes choses et le prophète a enseigné aux sahaba connaître qui est Allah et renforcer Iman Billah dans leur cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah, on change un peu, on passe à l'ulama de Aqidah. Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui était mufti également, il dit que inna da'wat ar-rusuli tadouru ala thalathati umur. Il dit si on étudie la prophétie de tous les anbiya, alayhim as-salam, 3 minutes pour faire une 15, quand on étudie la prophétie de tous les prophètes, on retrouve 3 points communs. Premièrement, ils enseignaient à leur umma تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وفعله. Il enseigne aux gens qu'il faut connaître Allah. Tous les prophètes ont enseigné aux gens qu'il faut connaître qu'Allah est unique, Allah est clément, miséricordieux, qu'il va accepter votre repentir et ainsi de suite, pour que l'homme crée une connexion avec Allah. الأصل الثاني, que chaque personne comprenne comment se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par le biais des ibadah, des bonnes œuvres. Et troisième chose que tous les prophètes ont fait avec leur umma, avec leur communauté, ta'rifuhum ma lahum ba'da al-wusul ilayhi fi dari karamatihi min an-na'im, jusqu'à la fin de la citation, que les gens prennent conscience de ce qui les attend dans l'au-delà. S'ils ont bien connu Allah et s'ils ont bien fait les actions qui les amènent vers Allah, quel sera le natija? J'ai dit tous les prophètes, mais ils allaient dans ce cheminement. D'abord expliquer aux gens qu'Allah est unique. Qui est Allah? Qu'est-ce qu'Allah vous demande de faire? Et si vous le faites, qu'est-ce qu'Allah va vous accorder? Il dit que donc, si nous on zappe une de ces étapes, qu'on ne connaît pas qui est Allah et qu'on passe direct à l'étape numéro 2, ben, ça ne va pas aller. Et du coup, on ne va pas intégrer réellement l'étape numéro 3. Oui, encore quelques points. Je vais peut-être sélectionner, donne-moi une seconde, un point important dans le Mustahan et puis on va clôturer, Inch'Allah. La ilaha illallah. Inch'Allah, il faudra trouver une autre occasion, hein, d'accord, pour approfondir un peu cette thématique, Inch'Allah. Subhanallah. Il dit que même quand Allah Azza wa Jal révèle des versets en rapport avec les ahkam, avec les ordres, les interdits, vous voyez, et là ça nous donne une autre vision. Du coup, on va chercher les sifats d'Allah dans le Coran, c'est toujours clôturé par les versets. Par exemple, j'ai bien choisi mon verset. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. L'important de se couvrir de façon pudique pour les dames, d'accord? À la fin, il dit wa kana Allahu ghafurur rahim. Il y a toujours un verset, le verset se termine toujours par les sifats, les attributs d'Allah Azza wa Jalla pour que l'homme comprenne mieux encore l'ordre qui lui est donné. Et en conclusion, on pourrait dire en conclusion, c'est une petite conclusion de Imam Sa'adi de Mufassir, il dit que quand une personne va connaître, il a départagé les qualités d'Allah, il dit les qualités en rapport avec la puissance d'Allah, les qualités en rapport avec la clémence d'Allah, les qualités en rapport avec la justice d'Allah Azza wa Jalla. Il dit que tout d'abord, quand quelqu'un a intégré tous les sifats qui vont dans le sens de ta'zimullah, qui nous fait comprendre la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jalla, ben assurément ton cœur sera rempli de crainte d'Allah. Et il dit que ça, c'est la base de taqwa. C'est le premier pas de la taqwa, c'est éprouver la crainte d'Allah. Et comment est-ce qu'on va éprouver la crainte d'Allah? Qu'on va connaître quelles sont les qualités d'Allah Azza wa Jal en rapport avec sa force et sa puissance. Il dit que quand une personne va étudier les qualités d'Allah en rapport avec sa clémence, sa bonté, sa miséricorde, son ihsan, comme Rahman, Rahim, Latif, Wadud, ben son cœur sera rempli de tamar, d'espoir. Quand est-ce que je vais rencontrer ce Seigneur qui est aussi doux, qui est aussi clément, qui est aussi miséricordieux? Il dit ben ça c'est le premier pas vers al-hubbu, vers hubbullah, qui est une condition de la ilaha illallah. Ça c'est un autre truc encore. Le Ulama a dit que parmi les shurut de la ilaha illallah, hubbullah. Pour que la ilaha illallah rentre dans le cœur, il faut aimer Allah avant tout. Il dit ben quand on va connaître les qualités d'Allah en rapport avec sa bonté, sa clémence, sa miséricorde, c'est là que on va développer l'amour pour Allah. Quand on va développer, quand on va apprendre les qualités en rapport avec le ilm d'Allah, la connaissance qu'Allah est sami', basir, alim, bidat as-sudur, bi kulli shay'in alim, qu'Allah connaît toutes choses, là on va réaliser que chaque action, chaque fait et geste, Allah m'observe, me voit. Même dans mon cœur, je ne vais pas laisser des mauvaises pensées s'installer parce que Inna Allah alimun bidhati sudur. Allah il connaît également ce qu'il y a dans mon cœur. Donc il y aura le haqiqa de muraqaba et de mushahada. Waouh, ça c'était magnifique. Le muraqabatullah va rentrer dans le cœur. Il y aura la pensée d'Allah permanente parce que je sais qu'Allah m'observe de façon permanente. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur de façon permanente. Dit que cela ne pourra pénétrer les cœurs qu'à partir du moment où le croyant va apprendre qu'Allah est alim, sami', basir et les autres qualités qu'on a citées tout à l'heure. Quand une personne va connaître les qualités d'Allah, comme Allah il est rani, Allah est le plus riche, ben il va réellement comprendre que lui n'est rien devant Allah Azza wa Jal et que tout ce que j'ai besoin, je dois demander à Allah. Et là, les savants disent que ça c'est la base de Wayaka Nasta'in. Qu'on a besoin de quelque chose, c'est devant Allah. Tawakkul pas sur les gens, confiance uniquement en Allah. Ça c'est les bases de notre iman. Ça les quatre exemples là, il y en a d'autres, ce sont les bases de la relation du musulman avec Allah, la spiritualité. Et cela ne peut s'acquérir qu'à partir du moment où on va connaître les qualités d'Allah afin qu'on ait vraiment la connexion avec Allah Azza wa Jal. Dis pas quand quelqu'un va comprendre les qualités d'Allah Azza wa Jal en termes de pardon, de maghfirah, comment Allah est capable de pardonner. Il n'y aura pas un pécheur qui va se dire que moi je suis le dernier des derniers, il n'y a plus d'espoir. Quel que soit le niveau de fisc ou les péchés qu'on a pu accomplir, on va être conscient qu'Allah Azza wa Jal est présent, Allah est là et qu'Allah va nous pardonner. Il y avait un texte que franchement je l'ai lu et j'ai eu confirmation que c'est authentique. Jibril alayhi salam, il a dit que si tu me voyais, ô Muhammad, auprès de Pharaon lorsqu'il allait périr, lorsqu'il était en train de mourir, et qu'il a dit Amantou, c'est quoi encore le verset? Amantou. Mais il a affirmé qu'il croit en Allah. Au moment de mourir, il était en train de noyer. Il a dit que j'ai iman en Allah. Il dit que si tu m'avais vu, je ne sais plus dans quelle page, je ne peux pas vous le retrouver, le sens. Jibril dit que si tu m'avais vu, dans Ibn Kathir, on dit j'avais rempli sa bouche de terre. Il doit dire que j'ai plus le terme quoi, d'écume, de la mer, autre chose, pour que ce son-là ne sorte pas. Makhafatan. J'ai eu peur qu'à un moment donné, Allah entend, et Allah il entend, subhanallah. J'ai eu peur qu'à un moment donné, Allah ait pitié de lui. Et qu'Allah lui accorde son pardon parce qu'il fallait qu'il périsse. Elle dit tellement Allah est clément, tellement Allah aime pardonner, que même Pharaon, s'il m'avait pas bloqué Ali, en ce sens, si je l'avais pas arrêté, j'avais peur qu'à un moment donné, Allah, il ait pitié de lui, tellement Allah aime la personne qui revient vers lui. Subhanallah, dit donc, les amants disent, Saadi, je sais pas comment il s'appelle, il dit que quand quelqu'un a réalisé la clémence d'Allah, comment Allah peut pardonner, personne ne s'estimera trop loin, ou il est parti trop loin, on aura toujours, husnuddan, une pensée positive, et ar-raja, l'espoir en Allah Azza wa Jal. Il dit de cette façon, on va atteindre le plus haut degré de foi. Fahadil ma'arif, allati tahsulu lil qulub, il dit ces connaissances-là, qu'elles rendent le cœur, quand l'homme, bisababi ma'rifati l'abdi bi asma'ihi wa sifatihi, quand l'homme a appris les noms et les attributs d'Allah, et qu'il a adoré Allah, Allah Akbar, wa ta'abbudihi bihalillah, c'est ajib. Dit que, ça c'est les savants, nous on n'est rien, on est des traducteurs, ça c'est les savants. Dit que quand l'homme a intégré, subhanallah, les qualités, les noms, les qualités d'Allah, et qu'il adore Allah en fonction de ses noms, de ses qualités, il dit que là, il y a de son cœur, min at-ta'zim wal ijlal, il y a un ta'zim Allah, il y a subhanallah, l'amour pour Allah et la puissance d'Allah, il va intégrer la puissance d'Allah d'une telle façon que cette personne sera incomparable. Comment il aura l'amour pour Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, ce sera vraiment l'homme le plus émancipé sur le plan spirituel. فَمَنْ تَحَقَّقَ بِهَا عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًا وَحَالًا فَقَدْ فَازَ مِنْ كَمَالِهِ بِأَوْفَرِ نَصِيبٍ. Il va atteindre le plus haut degré de kamal al-iman, celui qui l'a compris, qui l'a intégré et qui vit sa religion de cette façon. Toute action de la religion va devenir claire, accessible, et il va comprendre le sens. C'est comme si on enlève un voile gigantesque, et on comprend, et comme les sahaba, ils ont compris que ça, c'est pour m'amener vers Allah, et je sais qui est Allah, j'attends le moment où on rencontre Allah. Et là, je conclue, pour de vrai, là on comprend une phrase que le prophète dit, « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a » Ajib, celui qui aime rencontrer Allah, c'est-à-dire celui qui est prêt à mourir tout de suite. Si on fait Alan, dit qui veut mourir maintenant, lève le doigt. Et comme Malik al-Maut est là, exemple, il est dans la tente, là-bas, il dit que celui qui veut mourir tout de suite, lève le doigt, immédiatement la personne tombe, il meurt. Qui c'est qui est prêt à retourner auprès d'Allah maintenant? Faut être honnête, c'est pas évident. Il m'est arrivé, déjà dit ça dans notre intervention, il m'est arrivé une fois en Umrah, devant la Kaaba, Ramadan, si je ne me trompe pas, en Ihram. J'ai eu une douleur au niveau du cœur. Mais ça serrait, m'a dit, oh paix, les monte là-haut là. M'a dit, non, y'a Allah, les enfants à la maison, la bébé et tout. Devant Kaaba, en état d'ihram. Je ne sais pas si c'était le mois de Ramadan ou une autre période. Même dans ces moments d'intensité spirituelle, Sharafu Zaman ou Al-Makan, tu t'accroches à la vie parce que nous sommes des insans. Fitra. On s'accroche. Je vous jure. C'est des doigts qu'on demande tout le temps, Allah, j'aimerais un jour mourir dans le tawaf, en ihram ou en arafat. Mais kalam, cause un temps. Quand il arrive situation, là tu te dis, ah non, mon petit enfant, encore tant, babaton, encore 6 mois, 7 mois, laisse grandir, et ainsi de suite. Wallah, il fait ses expériences. Il dit que quand est-ce qu'on va réaliser que les sahaba, si n'importe quel moment on disait que c'est l'heure de redonner le poids d'Allah, khalas, musta'id. Les sahaba qui étaient à Badr, je me trompe pas, tu es en train de manger des dates, on voit samedi, tu perds ton temps. Le Jannah est devant toi. Il a dit Allahu Akbar. Il a lâché les dates. Il dit que khalas, si Allah m'appelle, j'appartiens à Allah. On va pas dans ce sens-là. On comprend que la personne qui a compris que c'est qui Allah, il attend qu'une chose. Quand je retourne auprès de lui. C'est pas quelqu'un qui devient suicidaire. Hein? Du tout. C'est pas qu'il n'a plus d'espoir. La vie dit, ah, écoute, saoule pas ma tête, mamie, attends la mort. Mais ça, c'est un monde qui a un problème. Il doit aller voir un psychiatre. C'est autre chose. D'accord? C'est quelqu'un qui est déprimé. Il lui faut l'exomil, Stilnox pour dormir le soir. Et puis, il y a d'autres traitements. Mais il peut y aller s'il veut. Ça n'a pas de souci. On parle pas de ça. On parle à la personne qui a tous les ni'amats qu'il faut. Il a tous les bienfaits qu'il faut. Ça va bien. Il a de l'argent. Il a la famille, il a les enfants. Il s'en sort, mashallah. Mais si on lui propose une seconde, est-ce que tu es prêt? Retourne vers Allah. Il dit, Wallahi, Al-An, Ya Rabb. Il retourne. Comme le prophète sallam, lorsque l'ange de la mort est venu, dit que, oh Muhammad, est-ce que tu acceptes de retourner auprès d'Allah maintenant? Ou alors, Allah te donne encore la possibilité de rester et d'avoir tous les bienfaits de ce monde? Il a rafiq il a'la. Retourner auprès d'Allah. Ça c'est Allah Akbar. Ça c'est vraiment haut degré, on regarde ce haut degré-là avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un télescope, ce n'est même pas des jumelles, mais qu'Allah nous donne la possibilité un jour d'arriver à ce niveau. Parce que quand on est à ce niveau-là, on ne se plaint plus de rien. Et on apprécie chaque jour qui passe, c'est un jour où je peux adorer Allah, on espère qu'Allah accepte, et on espère qu'Allah nous donne encore plus demain, pour que l'ange de la mort prenne mon âme, Allah est content de moi, et que le bonheur et l'émancipation, c'est quand je vais être devant Allah. Je vais trouver mes 50 ans de namaz, je vais trouver mes 12 hajj, mes 45 umrah, mes 2000 khatm al-Qur'an, mon dhikrullah. Oh Allah, quand est-ce que tu me reprends pour retrouver ça auprès de toi? Et c'est pas qu'on a la barbe blanche, même quand on est jeune, on attend quand Allah me reprend pour obtenir ça auprès d'Allah, parce que là-haut c'est Jannah, c'est dunya, c'est Jannah al-mu'min pour le kafir, et là-haut c'est le Jannah pour le croyant. C'est l'endroit où on voit le résultat de notre vie, et qu'Allah nous accepte. On a été un peu plus long, mais pas assez long. Je suis très frustré. On est resté dans l'introduction, mais comprenez que c'est magnifique, c'est juste magnifique. Moi-même, ça fait une semaine que je travaille ça. Je me suis beaucoup fatigué. Wallahi, c'était vraiment un programme très, 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 très complexe à préparer. Mais je remercie Allah Azza wa Jal. Je remercie Allah Azza wa Jal parce que j'ai pu lire des tafsirs sur Rahman, Rahim, Azim et Latif. Je pense que déjà, ça a changé ma vie. Je pense que déjà, depuis ce matin, je suis en train de voir les choses d'une autre façon. Je me rends compte qu'on connaît, on est un petit peu un alim, on connaît, mais quand on va plus loin, j'ai approfondi Rahman Rahim. J'ai imprimé 45 feuilles sur Rahman Rahim. J'ai imprimé 30 feuilles sur Azim, la grandeur d'Allah. J'ai imprimé, pour vous dire le menu du jour, j'ai imprimé 15 feuilles. C'est-à-dire que je n'ai pas la même notion de temps. Et j'ai imprimé 15 feuilles sur Latif. Et je me suis dit que Tibé, je me suis trompé jusqu'à maintenant. Il y a des choses où je voyais comme calamiteux ou compliqué, mais non, c'est pas compliqué. C'est comme ça, et c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça, et ça ne doit pas changer. C'est comme ça, Allah a voulu. Si Allah a voulu que c'est comme ça, Allahu Akbar, Alhamdulillah, fasbir wa ihtasib. Patient. Quand une femme vient voir le prophète, elle dit au prophète d'Allah, je suis aveugle. Demande-toi à Allah qu'Allah me donne la vue. Le prophète me dit, oh madame, si je fais doigt, tu retrouves la vue. Allah va te donner. Mais si tu patientes, Allah te donne le Jannah. Dit au prophète d'Allah, le Jannah. Je reste aveugle jusqu'à ma mort, mais j'obtiens le Jannah. Yaqeen, conviction. Qu'Allah, acceptation du taqdir. Le prophète fait comprendre que c'est ce qu'Allah a décidé pour toi. Tu veux Isa'Allah, on enlève. Par le doigt. Mais si tu le gardes, c'est la décision d'Allah et tu es patient jusqu'à la fin et en finalité Allah te donne le Jannah. Dis que si, pour avoir le Jannah, si, il faut suivre ce qu'Allah a décrété pour moi, j'accepte al-rida bil-qada'i wal-qadr. Il obtient le Jannah et elle obtient le Jannah, Inch'Allah. Qu'Allah nous t'en fait de comprendre et Inch'Allah l'occasion par la suite de parler encore de ce sujet. Je pense que on est passé à côté de plein de choses, hein. Ça veut pas dire que notre enseignement est mauvais, mais on a besoin de voir les bases. Iman, il faut travailler iman. Il faut vraiment travailler les bases. C'est ce que les sahaba, ils ont pris pendant 13 ans à Makkatul Mukarrama, et ils ont ensuite perfectionné pendant 10 ans à Al-Madinah. Toute leur vie, ils ont pris iman. Et avant de mourir, Jibril, alayhi salam, vient voir le prophète, salam, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, et tous les sahaba qui sont dans la Masjid Nabawi, comme vous êtes, il vient et s'assoit devant le prophète, genou contre genou, pose main, dit informe-moi, mal islam, mal iman, mal ihsan, c'est quoi islam, c'est quoi iman, c'est quoi les branches de l'islam, les 5 piliers d'islam, c'est quoi les 6 branches de l'islam. Le prophète lui répond, dit c'est vrai, tu as raison, tu as dit vrai. Après il part, il s'en va. Le prophète dit, vous savez c'était qui? Il dit, c'était Jibril, ja'akum yu'allimukum dinakum, il est venu vous enseigner votre religion. C'est-à-dire, jusqu'à, ça c'était, les savants disent, c'était peu, après Hajjatul Wada', après le pèlerinage d'adieu, peu avant le décès du prophète, jusqu'à la dernière minute, iman, les sahaba, ils l'ont appris. Qu'Allah nous donne la possibilité de le faire, qu'Allah ouvre nos yeux, nous donne la clairvoyance pour qu'on réalise qu'on a besoin d'apprendre iman billah, et qu'Inch'Allah les savants de toutes les localités, ils donnent, nous tous nous donnons l'importance à ce thème et que nous essayons d'approfondir, faire des majlis qui vont de ce sens, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.